Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour les copains. Comment ça va bien? Incroyable.
Bienvenue en ce joli petite FAQ politique au KLM. On parle de l'actu, tout ça. Et voilà, ça roule vous, tout se passe. Vous avez regardé l'émission hier sur la recherche en santé mentale? Salut Mep. Il manque le V de veau. Ah! Je réponds à toutes vos questions. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Hop, boum, le titre est mis à jour, tout va bien. Petite question, où est-ce qu'on peut trouver la prog de Backseats? Tu peux t'abonner à la newsletter de Backseats, c'est le mieux pour avoir la prog. Tu peux t'abonner aux réseaux sociaux de Backseats, c'est le mieux pour savoir les émissions qui sont annoncées. On publie pas de prog à l'avance parce que ça peut bouger, c'est encore en cours de discussion. Les émissions de dans 3 semaines, 1 mois, etc. sont encore en cours de calage en fonction des partenariats, des locks, etc. Donc on peut pas vraiment annoncer à l'avance les dates. Salut Jean, est-ce que tu sais comment on devient assistant parlementaire? Ah bah faut demander à MEP assistant dans le chat, il va te répondre. Non, blague à part, comment on devient assistant parlementaire? On est embauché à l'issue d'un entretien d'embauche. Hein. Y a pas de, c'est pas un corps de fonctionnaire, c'est pas, y a pas de concours, il y a pas de, c'est à la discrétion des élus qui ont des assistants, donc les élus parlementaires. En l'occurrence, tu me poses la question pour les parlementaires. Que sont les députés européens et les sénateurs et sénatrices. En général, tu envoies ton CV, tu es reçu pour un entretien d'embauche et tu es embauché, voilà. Il faut évidemment, enfin après ça dépend qui t'embauche et pourquoi, mais il faut que tu aies des compétences, il faut que tu montres ta disponibilité, ton envie de travailler, tout ça. Après c'est un entretien d'embauche comme un autre, quoi. Du coup, si t'es là cet après-midi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de backseat ce soir. Non, il n'y a pas de backseat ce soir. Il n'y a pas de backseat ce soir parce que cette semaine, il y a eu Euroguesseur. Et comme c'est la même boîte qui coproduit, on peut pas trop se permettre de faire deux émissions la même semaine. Est-ce que tu as suivi les réquisitoires au procès de financement libyen de Sarkozy? Non, j'ai vu passer les titres. Mais il n'y a pas de surprise, hein, on savait que les réquisitions allaient dans le sens de la culpabilité de Sarkozy, ça, il n'y a pas trop de doute. Hein. Faut connaître le député. Il faut pas connaître le député pour être assistant parlementaire. Ça, c'est un peu un cliché. L'idée qu'ils embauchent que des potes, etc., des gens qui connaissent déjà. Non, tu peux être embauché assistant parlementaire d'un député que tu rencontres pour la première fois en entretien d'embauche. Maintenant, il faut bien comprendre que les députés, dans leur entourage, dans les militants qu'ils connaissent, dans les militants associatifs qu'ils ont déjà rencontrés, ils ont déjà rencontré des gens, et donc il y a de fortes chances qu'effectivement ils se dirigent vers une personne dont ils connaissent déjà les qualités. Mais voilà. Par contre, si, il faut connaître le député, c'est-à-dire qu'avant l'entretien d'embauche, je me permets de vous suggérer de vous renseigner sur le député. Ne débarquez pas en entretien d'embauche en disant bonjour, vous êtes député d'où? Ah, sympa, j'aime bien, je connais le coin, ouais. Vous êtes député de quel parti? Ah ouais, ça me va, ouais. Ouais. Bah, je suis candidat. Ne faites pas ça. Ce serait bien qu'on sache clairement le lundi, mardi s'il y a un backseat le jeudi, même s'il n'y en aura pas, parce que là, il y a vraiment zéro annonce. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on améliore ça, ouais. Elles sont diffusées où, les offres d'emploi? Alors, pour les assistants parlementaires, c'est pas souvent que les offres d'emploi sont diffusées. Ce sont des embauches, comme je vous disais, de collaborateurs proches du député. La plupart du temps, ça se fait en interne dans les circuits des personnes d'ores et déjà connues du député. Donc, ce n'est pas vraiment des offres d'emploi public. Ça peut arriver que des députés, notamment des députés nouvellement élus, diffusent sur les réseaux sociaux des appels à candidature, auquel cas vous pouvez postuler, hein. Mais sinon, si vous voulez devenir assistant parlementaire, le mieux, c'est de vous rapprocher des élus, c'est-à-dire de faire partie des cercles proches de l'élu. Comme ça, vous saurez s'il y a un poste à pourvoir ou pas, et s'il y a un poste à pourvoir, vous pourrez faire passer votre CV, quoi. Du pistonnage. Non, c'est pas du pistonnage. Le pistonnage, c'est quand une personne en position de pouvoir te place à un poste auquel tu n'aurais pas accès sans ça. Là, c'est pas du pistonnage. C'est du réseau. Oui, c'est du réseau. Mais c'est du réseau, c'est comme le réseau professionnel, hein. Vous savez, il y a énormément d'entreprises ne publient pas d'offres d'emploi pour des emplois disponibles. C'est juste que ça se sait dans le milieu que Michel s'en va. Bon, bah, il y a des gens qui sont intéressés par le poste de Michel, qui font savoir à la direction qu'ils sont preneurs d'un entretien en vue de d'évoquer la possibilité d'éventuellement peut-être. Voilà. Bah, c'est pareil en politique. La frontière est mince. Non, entre pistonnage et réseau, ou alors on sait, ou alors on parle pas de la même chose quand on parle de pistonnage. Combien d'assistants parlementaires à un député? En général, trois. Trois, c'est le chiffre le plus commun pour les députés. Au bout d'un moment, si tu veux bosser quelque part, c'est pas déconnant de faire partie de la sphère sociale. Bah oui. Oui. Dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel milieu professionnel, vaut mieux être proche du milieu. Si tu veux bosser dedans, ça peut permettre juste d'avoir des infos, par exemple. Tiens, t'étais au courant que machin, il s'en va. Ah non, tiens, je savais pas, il va où? Ah, il va bosser pour truc. Ah, ok, d'accord, mais du coup, son poste, t'es au courant si quelqu'un le remplace? Non, on n'a pas d'infos. Bon, bah je vais envoyer un mail. Voilà. Ça s'appelle un café. Dans le milieu politique, dans le milieu journalistique, dans le milieu partout, voilà, tu te renseignes, tu te rencardes. Sinon, t'envoies ton CV en mode candidature spontanée et ça peut te mettre dans la pile. Tu peux toujours, oui, tu peux toujours envoyer ton CV à un député en candidature spontanée alors qu'il n'y a pas de poste à pourvoir à ta connaissance. Après, n'en attends pas grand-chose, parce que s'il n'y a pas de poste à pourvoir, c'est peut-être qu'a priori, les postes sont pourvus, donc bon. Mais effectivement, ça peut. Est-ce que les assistants parlementaires doivent avoir une formation de type Sciences Po? Non. Non, non, il n'y a pas de formation requise. Il faut bien comprendre que l'embauche d'un collaborateur, c'est bien l'embauche d'un collaborateur. C'est-à-dire que le député va embaucher une personne pour devenir membre de son équipe rapprochée de collaborateurs et de collaboratrices qui travaillent avec lui tous les jours. Le député est libre, et encore heureux d'ailleurs, d'estimer quelles sont les compétences nécessaires, les qualités, les diplômes éventuels, etc. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un CV, d'avoir une formation Sciences Po? Non. Est-ce que c'est utile? Oui. Pour assistant parlementaire, oui, c'est plus utile qu'un CAP de boucherie. Et ça ne veut pas dire qu'un CAP de boucherie ne sera jamais assistant parlementaire, il peut tout à fait le devenir pour d'autres raisons. Et ce que disait Meb dans le chat tout à l'heure, c'est qu'il y a des députés qui vont chercher des profils particuliers en fonction du domaine et des missions qu'ils vont confier à leur assistant parlementaire. Si vous avez l'ambition de devenir assistant parlementaire pour travailler sur les dossiers législatifs, il y a un moment donné, c'est bien d'avoir les compétences de travail législatif. Et ça, vous pouvez les avoir par des diplômes, par de l'expérience. Si vous êtes fonctionnaire à l'Assemblée, si vous êtes fonctionnaire machin, que vous avez bossé sur des trucs et tout, voilà, très bien. Par contre, si un député cherche un collaborateur parlementaire pour travailler en circonscription, gérer l'agenda, les relations locales, etc. Pas forcément besoin d'avoir fait Sciences Po. Il faut avoir un bon relationnel, il faut connaître le terrain, etc. Donc voilà. Il est salarié du député. Oui, à partir du moment où vous êtes embauché comme assistant parlementaire, vous devenez salarié du député dans le cadre d'une enveloppe qui lui est allouée par l'Assemblée pour payer des collaborateurs parlementaires. Donc c'est bien le député qui vous emploie. Et c'est l'Assemblée nationale qui vous paye votre salaire qui est pris sur l'enveloppe du député. Les collaborateurs, ils sont assimilés salariés, pas fonctionnaires. Ah non, non, oui, ils sont salariés, ils ne sont pas fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent être collaborateurs. À ce moment-là, il y a des systèmes dans la fonction publique de mise à disponibilité pour occuper des fonctions de ce type-là, puis retourner ensuite dans la fonction publique. Mais c'est pas des fonctionnaires. Comment savoir où sont les offres d'emploi? Il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi d'assistants parlementaires. Comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre des cafés. Il faut envoyer des mails, il faut rencontrer des gens, il faut serrer des mains, il faut connaître, il faut être au courant du milieu, de ce qui se dit, de machin, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à apprendre qu'un poste est à pourvoir et qu'on peut envoyer son CV. Pourquoi il n'y avait pas eu Usul quand c'était la porte-parole du gouvernement? Est-ce que tu voulais vraiment l'interviewer, Usul? Clémentine Autain, elle en propose de temps en temps. Non, oui, il y a des députés qui proposent des offres d'emploi publiquement. Ça arrive. C'est vrai que j'en ai vu à la France Insoumise, j'en ai vu chez les Gécolos, j'en ai vu à gauche. Je ne sais pas si ça existe aussi à droite, ça doit exister aussi. Mais ouais, non, ça existe. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas les poissons qui nagent le plus dans la mer. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. C'est quoi l'expression exacte? C'est pas la majorité du genre, voilà. Sur les poissons volants. Voilà, c'est bon, je l'ai. Non, mais laissez tomber. Je suis fatigué. La politique est un milieu professionnel de réseau. C'est normal. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc il faut rentrer dans le réseau. Moi, quand j'ai commencé, je me pointais à des événements avec un CV dans la poche. Comme ça. La table ronde truc, le colloque machin et tout, bah j'y allais physiquement. Je ramenais ma petite gueule et tout, puis je rencontrais des gens. Je fumais des cigarettes, je buvais des bières et tout, puis on parlait, puis voilà, puis on se rencardait et tout, machin. Je connaissais personne, hein. J'ai jamais connu personne en politique avant de commencer. Bon, bah on y va, hein. C'est pas les poissons les plus aiguisés de la rivière. Moi, j'ai commencé comme stagiaire et après, let's go. Ah bah moi aussi, hein. J'ai fait un petit stage de bébou. Et dans le cadre de mon stage, j'ai appris qu'un poste allait se libérer à un endroit. J'ai passé deux coups de fil, j'ai bu trois cafés avec des gens pour savoir si, comment, etc. Et pif paf pouf, j'étais embauché après. Du coup, pas là où je faisais mon stage, mais dans un truc à côté, parce que voilà. Ça reste un métier de contact, donc c'est aussi un moyen de montrer sa compétence, d'aller au-devant des autres comme ça en vrai. Bah oui, non, bah oui, clairement. Alors surtout en politique. En politique, la capacité à serrer des mains, boire des cafés et être sociable et discuter, échanger, etc. C'est vrai que c'est assez important. Oui, ça fait partie un peu de ces milieux professionnels où ça a du sens. Donc ça ne vous sera jamais inutile de montrer votre brouille dans des événements. À l'occasion de réunions de partis politiques, de manifestations, de colloques, de conférences, de voilà. Même en informatique, c'est la plus grande compétence que tu peux avoir, CAPA. CAPA, c'est parce que c'est ironique ou parce que j'en sais rien en fait, je ne sais pas. Mmh. D'actions militantes plus basiques aussi, tractage, collage d'affiches. Oui. Après, bon, c'est pas parce que t'es un bon tracteur et un bon colleur d'affiches que t'es un bon assistant parlementaire, tu vois. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Ah non, c'était pas un CAPA, c'était un LUL. Pardon, c'était un LUL. Excusez-moi, j'ai confondu. 10 ans sur Twitch, ça vous crame le cerveau, hein, vous savez. Ça permet de rentrer, de te faire voir du député qui a souvent besoin de militants. Oui, ça c'est vrai. Oui, non, bien sûr, encore une fois, c'est pas inutile, hein, c'est loin d'être inutile. Donc un bon conseil, c'est d'avoir des CV dans la poche, ça a bien fonctionné. Non, ça a pas fonctionné, ça a jamais fonctionné. Ça sert à rien d'avoir son CV dans la poche quand tu vas à un événement, c'est pas là que tu vas le donner, c'est pas là que tu vas machin et tout. Mettez pas votre CV dans votre poche. Allez à des événements, rencontrez des gens, discutez avec eux, ajoutez-les sur les réseaux sociaux, suivez-les, tenez-vous au courant, et le jour venu, envoyez-leur un mail, envoyez-leur un DM pour leur demander si il n'y a pas un poste à pourvoir, etc. machin. Les cartes de visite, je sais pas, moi j'ai quitté le milieu depuis des années. Ça existe encore les cartes de visite, ça marche encore. Parce que je me souviens que même à mon époque, c'était bien de la merde. Ça dépend des milieux. Ouais, c'est en dématérialisé, maintenant c'est LinkedIn, en fait, maintenant c'est LinkedIn. Tu files ton LinkedIn, quoi, ouais, d'accord. J'en sais rien. Moi, je sais pas, ça m'a jamais été utile, les cartes de visite. Moi qui rêve de partir vivre à Copenhague d'ici quelques années, mais qui n'adhère pas trop à leur projet politique, à leur politique. Tu penses que la France sera pire dans 3 ans, anyway? Alors, je sais pas si c'est la bonne manière de regarder les choses. Hein. T'occupes pas trop de la politique du pays et va vivre dans une ville qui te plaît. Hein. Mais ouais, non. Voilà. Question sans doute un peu idiote, mais je vois souvent passer l'expression union des droites sans savoir à quoi ça fait référence, parce que j'ai du mal à imaginer une coalition allant de Zemmour à Attal, est-ce qu'il y a un moyen de vulgariser? Oui, effectivement, je peux essayer de t'expliquer un truc là-dessus, c'est que l'union des droites, en fait, il faut bien comprendre que depuis la Seconde Guerre mondiale, les droites en France sont scindées en deux camps, supposément irréconciliables et ennemis jurés, que sont les camps issus de la collaboration avec les nazis et les camps issus de la résistance, donc les gaullistes, enfin les gens plutôt proches de Gaulle, quoi. Et pendant très longtemps, il existait ce qu'on appelait le cordon sanitaire entre ces deux droites-là, qui rendait totalement impossible et impensable des unions entre droite et extrême droite. Parce qu'issus de projets politiques radicalement différents. Or, depuis les années 80-90, il y a des gens qui travaillent en sous-main à un projet d'union des droites qui consisterait à abolir le cordon sanitaire et créer une grande coalition des droites qui irait des héritiers de Gaulle aux héritiers de Pétain, en passant par les héritiers de Giscard. C'est ça l'union des droites qui est rêvée, fantasmée par un certain nombre d'artisans de cette union, qui est rejetée par beaucoup d'autres personnes à droite qui refusent toujours cette idée-là. Et voilà. Est-ce qu'il y avait une droite qui se revendiquait de la collaboration après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Non, bien sûr. Mais même d'ailleurs, c'était dans le podcast de. Dans le podcast de Thomas Legrand sur France Inter, sur Enquête de politique, quand il a parlé de la droite, il y avait un historien qui rappelait que même le mot droite était banni dans le champ politique français après la Seconde Guerre mondiale. personne ne se revendiquait de droite. De Gaulle était certainement pas de droite. Il était pour la France, il était patriote, il utilisait plein d'autres mots. Mais la droite, la doctrine, etc., c'était hors de question, c'était sali, le mot était sali par la collaboration et tout machin. Bon. En réalité, donc la droite s'est structurée après la Seconde Guerre mondiale autour de deux grandes tendances, trois grandes tendances. Tu avais les gaullistes de l'UDR, hein, qui étaient derrière le général de Gaulle et son idéologie, disons, plastique. On avait la droite non gaulliste, qui remportera les élections présidentielles en 1974 avec Valéry Giscard d'Estaing, plus libérale, plus moderniste, plus européenne aussi. Et on avait l'extrême droite, issue des réseaux proches de la collaboration. Mais ce n'était pas forcément des partis politiques. Alors il y avait le parti, si, il y avait un parti, donc j'ai oublié le nom, le parti français, un truc comme ça, qui était un micro-groupuscule qui marchait pas très bien. Il y avait surtout Ordre Nouveau, qui était une grosse structure d'extrême droite, mais qui n'était pas forcément une structure partisane. Et en 1973, vous avez la création du Front National, parti politique qui a vocation à présenter des candidats aux élections, et qui était la chapelle qui réunissait toutes ces droites, toutes ces différentes petites chapelles d'extrême droite. Et l'artisan de cette union des extrêmes droites, c'était Jean-Marie Le Pen. Donc voilà. Le début de Gaulle au pouvoir, c'est limite une politique de centre-gauche réformiste. Alors, oui et non, parce que attention, parce que De Gaulle, en 1945, je vous rappelle qu'il est à la tête d'un gouvernement provisoire. D'accord? Le gouvernement provisoire, il est composé de trois forces politiques, les gaullistes, des réseaux de la résistance gaulliste, les communistes et les socialistes. Autant vous dire que les gaullistes ne sont pas en majorité. Donc si on met en place la sécurité sociale, si on met en place le droit de vote des femmes en 45, etc., c'est pas parce que De Gaulle est devenu de gauche du jour au lendemain. C'est parce que dans un rapport de force interne aux forces politiques en présence, voilà, il y avait quand même beaucoup de gauche, hein. Il y avait quand même, voilà. Après, il y a eu 46, la 4ème République. De Gaulle, il était contre, donc il s'est barré à Colombey-les-Deux-Églises pendant 10 ans, et il est revenu en 58 avec la 5ème République. Et donc, retour de Gaulle au pouvoir à partir de 58, et c'était pas une politique de gauche, hein. Le gaullisme est-il de droite? Oh. Bah, écoute le podcast, vraiment, hein, l'émission Enquête de politique de Thomas Legrand. Il a fait un épisode sur cette question-là, sur le gaullisme. Quelle était la doctrine politique du gaullisme? Et tu verras, c'est extrêmement intéressant quand les historiens t'en parlent parce que le gaullisme refuse absolument de s'ancrer dans un paysage gauche-droite. C'était déjà dû en même temps, hein, à l'époque. Le fameux discours du général de Gaulle disant la ménagère, elle veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. C'est dû en même temps dans le texte, hein. De Gaulle ne réfléchissait pas. De Gaulle n'avait pas d'idéologie. De Gaulle refusait la notion d'idéologie même. Il rejetait absolument l'idée qu'il existe des idéologies. De Gaulle se pensait largement au-dessus du système politique, de toutes ces bassesses partisanes gauche-droite, etc. De Gaulle, il est au-dessus. De Gaulle ne pense qua la France et à ses intérêts. Et De Gaulle prend des décisions en fonction des circonstances. Ça, c'est le mot préféré de De Gaulle, c'est les circonstances. En fonction des circonstances, on décide des trucs. Et les circonstances imposent, d'elles-mêmes, semble-t-il, des décisions, machin, etc. C'est pour ça que De Gaulle se retrouve à accorder l'indépendance à l'Algérie en 62, que toute la droite n'en revient pas. Il dit non, mais attendez, les gars, on va pas continuer. Hein. C'est fini les colonies. Hein. On arrête. Voilà. Une girouette en réalité? Non, De Gaulle n'était pas. Non, De Gaulle n'était pas non plus une girouette, faut pas déconner. n'était pas du genre à changer de réforme tous les 2 ans et tout. Il avait quand même. Je ne dis pas qu'il y avait rien dans sa tête, etc. Hein, De Gaulle, c'était la France. Et quand je dis la France, c'est la grandeur de la France, la modernisation de la France, l'indépendance de la France, donc la bombe atomique, le programme nucléaire. Voilà, la modernisation, le TGV, le Concorde, machin, ça, c'est ancré dans une volonté d'indépendance, d'autonomie, etc. Le départ de l'OTAN, voilà, De Gaulle avait quand même une vision dans les affaires étrangères. Puis ça restait un militaire, oui, ça restait un militaire le mec, hein. J'écoute beaucoup les audios d'Henri Guillemin. Est-ce que tu penses que c'est une bonne référence concernant l'histoire de France? J'ai vu que Henri Guillemin était très contesté quand même. Henri Guillemin cartonne sur YouTube parce qu'il a fait partie des très très rares professeurs d'histoire de son époque à filmer des cours, à enregistrer des audios, etc. Attention parce que entre Henri Guillemin aujourd'hui, l'histoire a évolué quand même. Enfin, je veux dire, les historiens ont fait du travail, ont un peu affiné des trucs, et je crois qu'il y a deux, trois trucs qu'Henri Guillemin dit qui sont pas ouf. Je saurais pas dire lesquels, d'ailleurs, mais j'ai lu des articles qui disaient que, ouais, mollo sur Henri Guillemin. C'est marrant parce que c'est vintage, mais bon. Est-ce qu'il y aura une censure dans pas longtemps? Bah, ça commence à monter, effectivement, la question de la censure du côté du Rassemblement National, surtout, parce que c'est surtout du côté du RN qu'il faut regarder. On a entendu des prises de position d'un certain nombre de responsables du RN menacer assez clairement le gouvernement de censure. Est-ce que c'est des menaces en l'air? Est-ce que c'est des menaces préventives avant le jugement de Marine Le Pen dans l'affaire qui la concerne? Peut-être. Est-ce que le RN va faire la même chose à Bayrou que ce qu'ils ont fait à Barnier? Peut-être. Il n'y aura plus de censure, le PS ne va pas prendre le risque, guerre USA, etc. La question du Parti Socialiste, effectivement, une question importante. Jusqu'à présent, le PS avait justifié le fait de ne pas censurer François Bayrou sur le budget, précisément par le budget. C'est parce qu'il fallait un budget que les socialistes ont décidé de ne pas censurer Bayrou à ce moment-là. 2 semaines plus tard, ils ont déposé une nouvelle motion de censure. Qui n'est pas passé puisqu'elle a été votée que par la gauche, mais à voir, le Parti Socialiste, ça va aussi dépendre de son congrès, qui aura lieu en mai-juin. Donc je pense que si des choses bougent, ce sera probablement soit à la fin de la session parlementaire, soit au début de la prochaine. Comment le RN à l'Assemblée peut-il influencer la justice? Non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Hein. C'est pas le RN qui influence la justice en disant des trucs, en menaçant de censurer le gouvernement. C'est dans l'autre sens. C'est vu qu'il y a l'épée de Damoclès de la décision de justice qui pèse sur le RN, peut-être que le RN a intérêt à bien montrer aux Français qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils sont contre le système, et que le système essaye de les censurer, de les empêcher de se présenter et tout. C'est plutôt dans ce sens-là que j'y pensais. C'est pour ça que le RN montre les muscles aujourd'hui en disant « attention on va censurer le gouvernement, machin. Le système nous en veut, ils essayent de nous empêcher de nous présenter et tout. Est-ce qu'on a la moindre chance d'avoir un gouvernement de gauche d'ici 2032? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par gauche, mais il y a une possibilité. Si le gouvernement de François Bayrou est censuré, admettons, d'accord? Ça veut dire quoi? Censure du gouvernement de François Bayrou. Ça veut dire que toute la gauche, PS compris, a voté la censure. Et que tout le RN a voté la censure aussi. Emmanuel Macron se retrouve dans l'obligation de nommer un nouveau gouvernement. Il n'est pas obligé de dissoudre. Hein. Il doit d'abord tenter de nommer un nouveau gouvernement. Il y a une possibilité. En fait, si tu regardes ce qu'il a fait jusque-là, c'est qu'il a nommé Michel Barnier, qui a essayé d'amadouer le RN, mais le RN lui a sèchement rétorqué que c'était mort, donc il a été censuré. Ensuite, on a Bayrou qui a essayé d'amadouer le PS en ouvrant le conclave sur la réforme des retraites. On verra si ça séduit le PS à long terme, mais ça n'a pas l'air d'être fou pour l'instant. Donc, faute de nouvelles solutions, peut-être qu'Emmanuel Macron va proposer une coalition avec la gauche. Peut-être pas toute la gauche. Ça m'étonnerait qu'il propose aux insoumis. De toute façon, les insoumis n'accepteraient pas, donc j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Peut-être que Macron va dire aux socialistes, eh ben, je vous propose que on fasse une alliance Europe Écologie Les Verts, PS, Macroniste, PR, etc. Est-ce que ça suffira en termes de majo? J'y crois pas. Hein. Parce que j'ai du mal à imaginer Horizon accepter de participer à ça. Le MoDem peut-être. Le MoDem peut-être. Mais voilà quoi. Il faut aller des Verts au LR. Alors les LR accepteraient pas. Hein. Les LR participeraient pas à ce truc-là. Déjà que les LR ils participent un gouvernement Bayrou du bout des lèvres. C'est ce que m'avait dit Sophie Prima dans les coulisses de Backseat quand on l'avait reçue la semaine dernière. Elle m'avait dit si il y a 6 mois j'avais su qu'un jour dans ma vie je serais ministre d'un gouvernement François Bayrou. Eh bah. Eh bah. Peut-être surpris. Donc non, 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 à mon avis, les LR, ils participeront pas à ça. Horizon, tant qu'il n'y a pas de LFI, normalement pas de soucis. Ah ouais, tu. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait dit, ouais. C'est vrai qu'il avait dit ça, Édouard Philippe. Que dirait le général de Gaulle? Il dirait que les circonstances appellent à. Je sais pas, j'en sais rien d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il ferait. Sais que c'est super de ne pas perdre l'opinion dans le chat, mais je pense pas que la PS irait. Ah ouais? Alors, je suis d'accord avec toi. Non, non, effectivement, non, non, mais t'as raison. Continuons à réfléchir à ce scénario fiction. Si Emmanuel Macron tendait la main aux socialistes, aux communistes, aux écolos, en leur disant, est-ce que vous êtes prêts à gouverner avec moi pendant les années qui viennent jusqu'aux prochaines élections, il y aura peut-être un réflexe d'une partie de la gauche, y compris des socialistes, qui sera de dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment notre intérêt d'aller gouverner avec les macronistes? Est-ce qu'on a envie de s'associer au macronisme finissant? Pas sûr que tous les socialistes acceptent. Hein. Non, c'est pas évident. Hein. Même s'ils y vont, LR, RN, LFI censureraient, je pense. Alors attends, 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 il faut qu'on fasse une simulation. Vous connaissez mon amour pour le simulateur de coalition du Figaro. Hop, ça part. Alors attends, attends, excusez-moi, il faut que je règle ça, il faut que je vire ça. Voilà. Le Figaro littéraire vous propose ce nouvel ouvrage sans homonyme de la langue française. Avec l'Académie française en fond. Vous savez, Aya Nakamura, tout ça. Pourquoi ils n'ont pas mis Aya? Le Figaro, pourquoi vous n'avez pas mis Aya Nakamura devant son palais? C'est bizarre, ça. Pardon, excusez-moi. On arrête de se déconcentrer, on retourne sur le simulateur de coalition. Donc, on est en train d'essayer d'imaginer qu'éventuellement, peut-être, Emmanuel Macron propose, didadidadoum, une coalition entre Ensemble, Horizon, le MoDem, les socialistes, les écologistes et les communistes. C'est pas mal. 284, c'est pas mal. Hein. C'est plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Lyot, ils iraient pas. Je pense que Lyot, ils iraient pas. Mais ils censureraient pas non plus. C'est pas la même chose. Je regarde maintenant qui censurerait cet attelage-là. LFI, RN, UDR, LR probablement. Est-ce que les communistes, ils pourraient jouer les troubles faites? Non. Les écolos, un peu, ouais. Est-ce que les 66 PS iraient? Je pense pas. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. LR, ils votent pas une censure LFI. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison en plus. Ouais, donc on peut se retrouver dans une situation chelou. Donc vous voyez, en fait, là où la mesure est compliquée, c'est qu'il ne faut pas simplement compter le nombre de sièges de la coalition, il faut compter le nombre de censeurs possibles, probables. Là, clairement, cet attelage bizarre serait probablement pas censuré par tout le monde. En fait, c'est un attelage qui serait pas censurable, mais qui pourrait pas faire passer beaucoup de lois, quoi. Toujours aussi choqué de voir un parti avec 47 députés qui est monté au gouvernement. Mais il n'est pas tout seul au gouvernement, ce parti à 47 députés. C'est le principe de coalition. En fait, en France, on est tellement peu habitué aux coalitions. On est tellement un pays présidentialiste à la con. On a tellement une 5ème République qui a flingué le cerveau de tout le monde que quand on a une coalition au pouvoir, les gens, ils regardent le nombre de députés du groupe du Premier ministre et ils disent « Ah oh bah alors ! Ah bah il a pas beaucoup de députés, qu'est-ce qu'il fout ? Il est pas légitime ? » Mais non, mais c'est une coalition, connard, il est pas tout seul au pouvoir. Et c'est toujours pareil, c'est à chaque fois. Mais on a tellement pas la culture des coalitions qu'on est encore surpris. Le NFP, c'est une coalition. Oui, bien sûr. Vous savez combien elle est députée, Lucie Castet ? Zéro. Voilà. Bah oui, elle est dans aucun parti politique, elle est dans aucun groupe, Lucie Castet, si elle était première ministre aujourd'hui. Mais on s'en fout du nombre de députés qu'il y a dans son groupe à elle. Ce qui compte, c'est le nombre de députés qui la soutiennent, c'est pas le nombre de députés que t'as dans ton groupe. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? C'est pas du tout pareil. Et aussi le nombre de députés qui la censurent. Et aussi le nombre de députés qui te censurent. Une grande coalition socialiste-conservateur à l'allemande, est-ce que ce serait possible? Non. Non, une grande coalition socialiste-conservateur, ça veut dire écologiste socialiste, Modem, Ensemble, Horizon, LR. Ah si, c'est possible. Voilà. On est en train d'essayer d'imaginer une coalition dans laquelle il y a Marine Tondelier et Bruno Retailleau. Hein. Moi, je. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Peut-être. On peut être surpris. Moi, je sais pas. sur les ZFE. Qu'est-ce qu'on fait sur les ZFE? Si jamais il y a une coalition entre Bruno Retailleau et Marine Tondelier, le gouvernement décide qu'il y aura des ZFE, mais que les jours pairs. On coupe la poire en deux. On fait un travail de coalition. On trouve un compromis. On est un peu écolo. C'est normal que tu sois pas dans la bonne catégorie Twitch. Quoi? Je suis dans quelle catégorie? Ah ouais, je suis dans Talk Show et Podcast. Merde. Ah oui, non, mais c'était pour hier, ça. Pardon, excusez-moi si ça vous chafouine. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire une catégorie Twitch, j'ai envie de dire. De nos jours, où tous les repères n'existent plus à l'Assemblée. De nos jours, où on en est à éventualiser des trucs comme ça, là. Qu'est-ce qu'on s'en branle de la catégorie dans laquelle... Voilà, non, mais non. Non, mais voilà. Vous vous rendez compte quand même le travail de service public qu'on fait sur cette chaîne où on essaie de trouver des solutions pour faire avancer le pays dans des coalitions avec une assemblée qui compte 12 groupes politiques, quoi. Quand même, non mais quand même, nous on fait ce qu'on peut, hein. On pourrait faire des coalitions de catégorie Twitch. Effectivement. Faudrait trouver un nom de coalition improbable comme en Belgique ou en Allemagne, oui, c'est vrai. J'ai pas suivi, André Chassaigne, il prend sa retraite politique. André Chassaigne, l'ancien président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, a quitté l'Assemblée nationale. Il va retrouver un mandat local. Donc oui, c'est une forme de retraite. Après 23 ans de débat, de travail politique à l'Assemblée, André Chassaigne prend sa retraite, oui. Il redevient maire. Non, il devient pas maire, il devient adjoint au maire. Ce qui lui permet de ne pas démissionner formellement de son poste et donc de son mandat, pardon, et donc de ne pas déclencher une élection législative partielle. C'est son suppléant qui va prendre sa place. Et j'ai oublié le nom de son suppléant. Quelqu'un l'avait mis dans le chat l'autre jour, je me souviens plus. Avec la nif de la dissolution, on va voir fleurir les sondages de ce que donnerait une nouvelle assemblée. Spoiler, ça pue les chemises brunes. Ah bah ça, oui. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre la nif de la dissolution pour faire des sondages et constater qu'effectivement, le RN sortirait encore plus renforcé d'une nouvelle élection aujourd'hui. Sauf si on change de mode d'élection, toujours pareil. Hein, si on fait une élection au scrutin proportionnel, ça peut donner des choses surprenantes. Julien Brugerolles, voilà, merci. Julien Brugerolles, qui va prendre la succession d'André Chassaigne pour son mandat de député. Ça en est où la fameuse proportionnelle? Bah, ça en est nulle part, la proportionnelle. Alors, y a juste y a un truc à avancer, c'est qu'au Sénat, il y a une résolution qui a été votée. Il y a une résolution qui a été votée au Sénat, proposée par les écologistes, en faveur du scrutin proportionnel. Alors, une résolution, c'est pas contraignant. Une résolution, c'est un texte, disons, de prise de position, d'orientation, un truc comme ça. C'est politiquement intéressant, mais ça prévoit pas de dispositif législatif derrière. Et donc, le Sénat a adopté une résolution disant qu'il était favorable au scrutin proportionnel, sans préciser quel scrutin proportionnel, ce qui peut avoir son importance quand même. Mais bon. Donc, le Sénat semble ouvert d'esprit sur le sujet. Est-ce que la majorité sénatoriale a voté ça? Je crois pas que ce soit la majorité sénatoriale, je crois que c'est la gauche plus une partie de la droite sénatoriale. Je suis pas sûr que tous les LR aient voté pour le scrutin proportionnel. C'est un bon début, OSEF? Non, c'est un... Enfin, c'est un bon début, ça dépend de ton opinion sur la proportionnelle. Ça semble indiquer que le Sénat n'est pas du tout fermé à l'idée de voter en faveur d'un scrutin proportionnel. En cas de proportionnel, les macronistes, ils arrivent derniers parmi les trois blocs. Bah, ça dépend de si la gauche est unie, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépend de quel bloc tu détermines, en fait. Est-ce que tu mets le PS et LFI dans le même bloc? Bah, pas évident, hein. Le RN a de fortes chances de s'en sortir de manière plus qu'honorable. La gauche, ça dépend quel groupe, mais aux européennes, on a vu qu'elle se défendait plutôt pas trop mal si tu mets tout le monde dans la gauche. Et les macronistes, bah, ils ont fait un score hyper décevant avec Valéry Allier. Donc, oui, effectivement, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Les LR, ils arrivent en troisième position, mais ça ne les empêche pas d'être des faiseurs de roi. Ça dépend aussi du mode de proportionnel, une totale sans seuil, ça dépend. Et il n'y a pas besoin d'union. Oui, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi, ça dépend du type de proportionnel. Une intégrale sans seuil, il n'y a pas besoin d'union. Une proportionnelle à deux tours, il n'y a pas besoin d'union au premier tour, mais au second tour, il faut quand même se rabibocher et faire alliance. Il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle d'ailleurs, c'est dans le code électoral. Exactement. C'est dans le code électoral, il n'y a pas besoin de changer la constitution pour modifier le mode de scrutin des élections législatives. Est-ce que tu as lu l'essai de Julien Jeannet? Ouais, je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai lu Contre la proportionnelle. C'est un tract qu'il a publié aux éditions Gallimard. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, on n'apprend pas grand-chose dans le sens où il ressort les arguments assez classiques opposés à la proportionnelle, sans dire fondamentalement qu'il est favorable au scrutin majoritaire. C'est pour ça que le livre s'appelle Contre la proportionnelle et non pas Pour la majoritaire. évidemment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va chercher un peu à l'étranger. Il va chercher des exemples à l'étranger pour montrer. Alors moi je trouve pas que ce soit un argument contre la proportionnelle, mais en fait il montre qu'il y a tellement de modèles de proportionnelle différents, dans tellement de contextes politiques différents, que ça donne des résultats hyper différents en fonction des pays, des cultures politiques et tout. Donc la proportionnelle n'est pas, et je suis d'accord avec lui, la proportionnelle n'est pas une baguette magique qui à elle toute seule renforce, solidifie la légitimité, renforce la démocratie et la cohésion gouvernementale et tout. Non. Non, ça dépend des comportements d'acteurs, ça dépend des électeurs, évidemment, ça dépend des partis politiques, ça dépend des ambitions hégémoniques ou pas, ça peut donner des résultats tellement différents. Et même, il donne un exemple, il faudrait que je retrouve, mais il donne un exemple de deux pays européens voisins dans lesquels il y a le même scrutin, exactement le même scrutin, mais ils n'ont pas du tout les mêmes résultats. C'est-à-dire, dans un des deux pays, tu as 11 partis politiques différents et c'est le bordel. Ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Et dans l'autre partie, tu as un espèce de bipartisme qui existe depuis très longtemps, qui bouge pas. Il y a des alternances, mais c'est pas incroyable. Et voilà. Donc en fait, la proportionnelle ne crée pas spontanément comment dire, de l'instabilité gouvernementale, comme on l'entend beaucoup en France, mais elle fabrique pas non plus spontanément de la diversité politique et de la politique de coalition. Donc voilà. Donc oui, non, c'est intéressant. Le propos de Julien Jeannet est intéressant, effectivement. Ne serait-ce que parce que ça nous force à réfléchir, et ça, c'est cool. bipartisme comme au Canada où il y a actuellement des élections fédérales. Les élections fédérales au Canada, c'est quel type de scrutin? C'est une proportionnelle? C'est par province? Comment ça marche? Je sais plus. C'est majoritaire et uninominal à un tour. Ah ouais, donc c'est comme au Royaume-Uni. Winner takes all. C'est vénère, hein. Majoritaire à un tour, c'est vénère. Vous savez ce que c'est, une élection majoritaire à un tour? C'est que les candidats se présentent et c'est celui qui arrive en premier qui est élu. Peu importe le score qu'il fait, hein. Peu importe. Tu peux être élu avec 25% des voix, hein. On s'en branle, t'es le premier, t'es élu. Glup. Du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est ce qu'on constate au Royaume-Uni, c'est que le scrutin majoritaire à un tour, ça a tendance à renforcer le bipartisme. Là, tu es obligé d'avoir une alliance dans la circonscription, entre tous les partis de gauche, si tu es à gauche. Et à droite, pareil. Donc on se retrouve avec des élections où effectivement le vainqueur gagne avec 40% des voix, mais le deuxième, il est à 35%. Tu vois, c'est con, hein, la marche a été pas très haute, mais c'est raté, cette fois-ci, c'est niqué. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça un peu raide comme élection. Comme en France finalement. Bah non, du coup non, c'est tout l'inverse. L'alliance avant l'élection, c'est mieux qu'après. Ça dépend du mode de scrutin, et ça dépend pour quoi faire. Y a aussi des strates par circo, vu que chaque siège de député compte dans le résultat. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il peut y avoir des accords entre partis, bah, c'est ce qu'on a en France avec le NFP notamment, mais pas seulement. Ouais, j'ai vu qu'Alexis Kohler avait annoncé sa démission. J'ai rien à dire, hein, oui, d'accord. Le secrétaire général de l'Élysée, depuis 7 ans, quitte ses fonctions. C'est sympa les débats à Westminster. Ouais, je t'invite à les regarder si t'as jamais vu. En plus, il parle un anglais exquis, je te laisse imaginer. N'hésite pas à regarder les débats à Westminster, ouais, c'est cool. Oui, Alexis Kohler a annoncé sa démission. Oui, Alexis Kohler va quitter l'Élysée. Pas sûr que ce soit une news si importante que ça, mais il aura duré longtemps quand même, hein. Alexis Kohler, celui qu'on a surnommé le vice-président. Bah oui, c'est deuxième homme de l'État après Emmanuel Macron, en termes d'influence et de pouvoir. Suite à la commission d'enquête, je crois pas, non. Pourquoi son nom ne me dit rien? Alexis Kohler, ça te dit rien? Ben, c'est un bonhomme important, quoi. Sarkozy, premier président, à prendre du ferme? Ben, j'en sais rien, ça dépendra de la décision de la justice. Là, on n'a que les réquisitions du parquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet d'actu? Didadidadoum, maintenant qu'on a refait la coalition, qu'on s'est rendu compte que c'était inextricable, et qu'on verra s'il y a une censure ou pas au mois de juin prochain. Il a déjà pris un enferme, Sarkozy. Oui, il a déjà pris un enferme en condamnation définitive. C'est pour ça qu'il a un bracelet électronique. Il s'est passé quoi avec le Lego chat? Il est différent? Non, toujours le même. Il n'a pas changé. Il ronronne. C'est faux. Signal et les Américains. Bah ouais, ça, on en avait déjà parlé avant-hier de cette dinguerie d'un journaliste rajouté par erreur dans un groupe Signal dans lequel on discute de frappes militaires américaines. Perso, j'ai l'impression qu'on se trouve devant une impasse institutionnelle. On a beau tourner le problème dans tous les sens, c'est impossible de trouver une majorité stable. C'est pas une impasse institutionnelle, c'est une impasse politique. Pas les institutions. Les institutions, elles n'ont pas changé, hein. Elles étaient très stables jusque-là. C'est les résultats de l'élection qui ont changé la donne, mais c'est pas les institutions. Le journaliste a tout balancé cette nuit, je crois, après que les mecs dans le groupe aient menti ses serments. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Les institutions vont très bien, on a juste une assemblée qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Ouais, c'est à peu près ça. Ça veut pas dire que les institutions sont très bien, sous-entendu que on n'a pas de discussion à avoir sur les institutions elles-mêmes. On peut toujours discuter des institutions. Mais tu peux inventer la meilleure république du monde. C'est pas le débat. Si dans ton assemblée, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ah, on a un pays qui est divisé. Oui, par ailleurs. Mais ça, on n'est pas les seuls à l'avoir, hein. Donc. Les institutions permettent pas trop de sortir du blocage politique. C'est pas leur taf. C'est pas leur taf. Le blocage est d'ordre politique. Il n'est pas dans l'institutionnel, il est d'ordre politique. Pour les municipales, départementales ou régionales, ça ne se produirait pas. On a déjà vu des conseils municipaux bloqués, on a déjà vu des conseils régionaux bloqués. C'est pas magique non plus, hein. C'est sûr qu'ils ont des règles, notamment avec des primes majoritaires, qui changent un petit peu la méthode, la règle, et qui garantit plutôt les hégémonies de pouvoir. La prime majoritaire au régional, ça aide quand même à avoir des majorités stables. Mais je vous rappelle que la Ve République, pendant 70 ans, elle n'a pas eu de prime majoritaire, on avait des majorités stables quand même, hein. C'est les électeurs qui décident. La prime majoritaire, par exemple, c'est une institution qui empêche le blocage. C'est pas une institution, c'est une règle électorale. C'est pour ça que c'est réclamé par Marine Le Pen. Hein. Pourquoi vous croyez que Marine Le Pen, elle veut une prime majoritaire? Bah, elle est pas folle, la guêpe. Hein. C'est très bien que c'est elle qui va l'avoir, donc tant qu'à faire. Garantir la stabilité. Moi, je vous garantis que le jour où j'aurai 350 députés qui me soutiennent, on sera dans une période de stabilité gouvernementale. Hein. Oula, ça va être stable. Hein. Oula. Fini les motions de censure, les 49-3, il n'y a pas besoin. Le fonctionnement par circo est quand même fait une grosse prime majoritaire. Hein? Le principe est différent, mais le résultat est assez similaire. Mais pas du tout. C'est quoi le rapport entre le découpage par circonscription et la prime majoritaire? Prime majoritaire, c'est un nombre de sièges qui est attribué d'office à la liste arrivée en tête. Ou au parti politique arrivé en tête. Découpage par circo, c'est juste une manière de faire des élections. Quand est-ce que tu nous fais un géopolitical simulator pour nous montrer comment on fait? Je sais pas, j'ai jamais joué, ça m'intéresse. Enfin, je sais pas, c'est pas un jeu qui m'attire beaucoup. Mais faut pas vous empêcher d'y jouer, hein, ça a l'air chouette. Mais non, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, les copains, faut qu'on réécrive la Constitution pour les nuls. Vous vous souvenez, on avait dit qu'on le ferait. Et on l'a pas encore fait. Donc il faut que j'inscrive dans ma prog pour les prochaines semaines, un jour, on va décider ensemble qu'on reprend la Constitution de la Ve République et on la réécrit. Mais on l'a réécrit pour les nuls. Entre nous. C'était un sub-goal. C'était un donation goal pour Baxit. Pour le financement participatif de Baxit. Donc voilà, on a 90 articles à réécrire. Et la Frag Movie Hollande. Ouais, il y avait la Frag Movie Hollande. Alors, le problème de la Frag Movie Hollande, c'est que c'était marrant quand Hollande était retraité de la politique. Mais maintenant qu'il est de retour dans le game et qu'on lui prête des intentions de machin, je me dis que la blague est moins drôle en fait. Et que. C'est pas tout à fait pareil, tu vois. ChatGPT, il te fait passer en 2 minutes. Oui, mais ça sert à quoi d'utiliser ChatGPT, une intelligence artificielle, quand tu peux bénéficier d'une bêtise biologique comme la mienne? C'est ça l'intérêt d'un streamer. C'est que je suis votre bêtise biologique. Donc on va plutôt utiliser la bêtise biologique pour réécrire la Constitution plutôt que de demander une intelligence artificielle. Un frag movie Sarkozy, non. T'attribues pas tous les mérites, on va t'aider aussi. Ça, je me doute. Je vous fais confiance. Vous allez m'aider. Non, un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est écrire un texte d'orientation pour le congrès du Parti Socialiste. Je sais pas si vous avez déjà lu un texte d'orientation de congrès du PS, mais c'est de la littérature très chiante à lire, avec plein de novlangues socialistes éco-participatives. Donc on pourrait écrire notre propre texte d'orientation du chat de Jean Massier, qui propose aux socialistes un vrai projet d'unité et de renforcement, un renouveau du message socialiste dans un monde en crise, en vue d'une large, comment dire, d'une large alliance des forces vives du pays pour la justice et le progrès. Vraiment, c'est jusqu'au bout. Le progrès, c'est bien. Tu tiens quelque chose. Ah ouais, non, 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 les taxes d'orientation, c'est fouf. Il y a les contributions générales aussi avant ça. Est-ce que tu vas stream le prochain Battlefield? Bon, si ça vous intéresse, oui, mais... Non, là, ça fait surtout longtemps que j'ai pas joué à Flight Simulator. J'ai pas mis à jour le jeu. J'ai un peu droppé Flight Simulator depuis janvier dernier, là. On s'est fait une grosse session pendant les vacances. Après, j'ai un peu droppé. Et là, jusque-là, j'ai pas trouvé le temps de m'y remettre. Ce serait peut-être temps. Grosse session et tamponçage en règle. Ah ouais, on est allé loin, ouais. Ah ouais, non, on est allé loin, on a presque fini le jeu, hein, d'ailleurs. Je crois qu'il me reste encore quelques compétences à débloquer, mais ouais, ça fait longtemps. En parlant d'avion, t'as vu la patrouille de France? Oui, j'ai vu la patrouille de France. Malheureusement, deux avions de la patrouille de France sont entrés en collision, en vol. Heureusement, tous les passagers ont pu être secourus et de ce que j'en ai compris, ils sont en vie. Mais ouais, non, la patrouille de France, pas marrant, ouais. Pas très rigolo. En même temps, ils volent vachement près les uns des autres, hein. S'ils volaient pas aussi près aussi. A priori, Flight Simulator est pété. Ah bon? Je sais pas, je me suis pas tenu au courant, j'ai pas vu les news. Ils sont saufs les pilotes? A priori, oui. Distance de sécurité. Sept ans contre Nicolas Sarkozy. 7 ans requis. T'as oublié un mot. 7 ans requis contre Nicolas Sarkozy. Faut pas oublier, hein, c'est les réquisitions du parquet, c'est pas le jugement. C'est incroyable de survivre à un truc comme ça. GG la science des sièges éjectables. Ouais, grave. Sièges éjectables qui ont sauvé des vies de manière incroyable. Requis, ça veut dire max? Non, ça veut pas dire max. La peine encourue, c'est la peine qui est prévue par la loi. La peine requise, c'est la peine requise par l'acquisition, l'accusation, le parquet général. Et la décision de justice peut outrepasser les réquisitions du parquet. C'est tout à fait possible. C'est quoi le parquet du coup? C'est l'accusation? En gros, oui, c'est les magistrats qui ont fait l'enquête. En gros, le magistrat du parquet, c'est celui. Enfin, le parquet, ce sont les juges qui ont mené l'instruction, qui ont fait l'enquête, et qui présentent au juge du siège l'accusé en disant Monsieur le Président, nous accusons monsieur d'avoir commis tel délit. Voilà pourquoi on dit ça. Et à l'issue des débats, nous requérons une peine contre monsieur machin. Et donc le juge dit merci, je vous ai entendu. La parole est à la défense. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Plaidoirie des avocats. Et à l'issue de tout ça, les débats sont clos. Les magistrats se retirent et rendent leur jugement. Requis, c'est la peine demandée par l'accusation, en gros, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. C'est la peine demandée par l'accusation. Nous, accusation, à l'issue de notre travail d'enquête et des débats qui ont eu lieu au tribunal, nous estimons qu'il faut que la peine soit celle-ci. Voilà ce que nous, on pense. Et le juge peut suivre les réquisitions du parquet et prononcer la peine demandée. Il peut outrepasser la peine, il peut aller plus loin. Et il peut aussi décider ne pas être d'accord. Il peut être convaincu par la défense et donner une autre peine. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne politique aille vraiment en prison? J'ai l'impression qu'ils arrivent toujours à esquiver en bracelet ou aménagement. mais ça peut être qu'un biais cognitif. Oui, c'est déjà arrivé. Il y a eu Bernard Tapie, il y a eu Claude Guéant qui sont allés en prison. Patrick Balkany également. Mais il faut bien que vous gardiez en tête un truc qui est important. C'est que les délits pour lesquels les délits pour lesquels les politiques sont condamnés lorsqu'ils sont condamnés sont rarement des délits de délinquance, disons, classique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des atteintes à la personne. C'est pas des atteintes au bien. Les politiques ne tabassent pas des gens, les politiques ne font pas de cambriolage, etc. C'est pas des gens qui sont dangereux pour la société, dangereux à être dehors, etc. C'est une des raisons pour lesquelles les juges d'application des peines estiment qu'on peut tout à fait faire la peine sous bracelet électronique. Il n'y a pas de danger imminent pour la société qu'un mec qui a commis un délit de détournement de fonds publics vive à l'extérieur. Il n'est pas dangereux pour les gens. Il peut prendre le bus, il n'a pas fait la preuve de sa dangerosité pour la société, etc. Mais comme en France, on a une vision vengeresse de la justice, je ne sais pas que en France d'ailleurs, tu as cette idée effectivement que les politiques qu'on n'aime pas, parce qu'on n'aime pas les politiques, devraient prendre cher et souffrir, etc. On a encore cette vision, y compris à gauche hein, d'ailleurs, de la violence institutionnalisée qui doit faire souffrir le corps du méchant politique. Quand vous ne payez pas un crédit, ça peut être du vol d'argent, mais vous ne rentrez pas en prison. Oui, il y a quand même assez peu de chance, ou alors grosse récidive. Hein. Parce qu'on estime qu'ils ont un devoir d'exemplarité de par leur fonction. Oui, mais je vois pas en quoi ça implique le fait qu'il faut qu'ils souffrent dans leur chair, nécessairement. Le biais principal, c'est de croire que la prison n'a qu'une vertu punitive, alors que non, protéger la société et réinsérer la personne sont des enjeux principaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Entre ce que prévoit le droit et ce que une grande partie de l'opinion publique et de la société pense, il y a une divergence de point de vue absolument stratosphérique. C'est pour ça qu'un ministre de la Justice comme Gérald Darmanin peut annoncer la fin des activités ludiques, et je mets d'énormes guillemets, en prison, sans que ça choque l'opinion publique. Parce qu'on continue à avoir cette image de « la prison, ça doit faire souffrir ». Un prisonnier dans sa cellule ne doit pas rire. Il doit regarder le sol, il doit être triste, il doit s'en prendre plein la gueule, ça doit être violent pour lui, etc., pour son corps, machin. On a encore cette vision-là. Et le retour du bagne, ah ben je me souviens qu'il y avait des politiques qui avaient proposé le retour du bagne, ouais. C'est plus que violent, ça doit être humiliant pour la personne. Oui, ça doit être humiliant pour la personne, il y a aussi ça. Donc, oui, en fait, je ne vois pas pourquoi nos lois s'appliqueraient différemment aux hommes politiques. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception pour les hommes politiques qui devraient... Ne pas pouvoir bénéficier de peines alternatives à la prison ferme sous prétexte que c'est des hommes politiques. Je vois pas pourquoi. Il y a un principe d'égalité devant la loi et de bénéficier à tous, y compris aux hommes politiques, et y compris aux politiques que je n'aime pas. Je vais le dire très clairement, même les politiques avec qui je suis opposé, j'espère que c'est les lois qui vont leur être appliquées, toutes les lois, pas juste les lois qui me plaisent. Et donc oui, effectivement, pour des délits... pour des délits de col blanc, etc. Je ne suis pas absolument scandalisé qu'il y ait des peines alternatives à la prison qui soient décidées. Et sinon, on n'a jamais rarement vu un homme politique en prison. Bah, déjà, c'est faux, on a déjà vu des hommes politiques en prison, mais la preuve que visiblement, c'est pas assez à ton goût, parce qu'il aurait fallu qu'il y en ait plus. Mais je crains que malheureusement, ce soit un puits sans fond, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais assez. Il faudrait qu'il y en ait plus, il faudrait qu'il soit plus longtemps en prison, et puis encore une fois, il faudrait qu'il souffre, il faudrait que ce soit humiliant, il faudrait que machin. Non, mais ok. Georges Tron, condamné pour viol, a fait de la prison. Bah, en l'occurrence, Georges Tron a été condamné pour un délit d'atteinte à la personne. J'ai un viol quand même, pardon, mais. Alors, t'es sûr que c'était viol, c'était pas agression sexuelle? Je sais plus. Enfin bref. C'est pas tout à fait la même chose que de trafiquer des fausses factures, tu vois. Je peux comprendre effectivement une peine d'enfermement qui peut être justifiée par la gravité d'un délit où il a porté atteinte à des personnes, physiquement. Donc moi je ne suis pas juge des libertés et de la détention, hein, mais je vois bien le boulot qui est celui des juges des libertés et de la détention, qui doit adapter la peine à la réalité de la personne condamnée et veiller au respect des objectifs qui sont fixés par la loi sur l'effectivité de la peine et son utilité. Et non, c'est pas toujours utile d'envoyer quelqu'un en prison. Viol ou agression sexuelle ne sont pas considérés comme crimes. Non, le viol est un crime, l'agression sexuelle est un délit. Mon souci, c'est pas de les voir en prison. Mon souci, c'est de voir la différence de traitement entre le pouvoir et celui du peuple. Parce que le peuple, quand il est condamné pour des détournements de fonds, tu crois qu'il va en prison? Enfin, tu vois, c'est. Je ne suis pas en train de te dire que les politiques sont traités comme tout le monde, je suis en train de te dire que enfin, je vois pas en quoi ils sont traités différemment. Hein. Encore une fois, à délit similaire, condamnation similaire. Le peuple détourne pas de fond déjà. C'est bien connu. Le bon peuple respectueux des lois versus l'élite corrompue, oui. On la connaît, on la connaît. On met en prison des gens qui ramassent des canettes de Red Bull pendant les manifs. Bah, d'accord, mais je ne connais pas de responsable politique qui a ramassé des canettes de Red Bull pendant une manif. Peut-être qu'il serait allé en prison aussi, j'en sais rien, je sais pas. Ça me fait penser à la différence malsaine dans le comparatif entre fraude aux allocs et évasion fiscale. Ouais, c'est vrai, il y a toujours cette espèce de surenchère un peu glauque. La gauche est contre la fraude fiscale et la droite est contre la fraude sociale. Ça aurait toujours existé, hein. Les politiques ne sont-ils pas responsables de l'état de la population actuelle des prisons? Mais c'est qui les politiques pour toi? Parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'André Chassaigne soit responsable de quoi que ce soit, tu vois. J'ai bien compris que tu voulais l'envoyer en prison, mais non, là pour le coup. Le maire de mon village, il est responsable de l'état des prisons françaises. Les politiques, devant leurs responsabilités, sont loin d'être sanctionnées à la hauteur de leurs délits. C'est pas seulement parce que c'est pas un délit ou un crime direct. Bah écoute, j'en sais rien. Ça dépend de quel délit. En fait, tu parles de quel délit, qui encourt quelle peine, qui ont fait l'objet de quelle enquête, qui a démontré quels éléments à charge et à décharge, qui a été jugé par qui. Moi, encore une fois, je veux bien hein, qu'on considère qu'il y a une espèce d'impunité générale au sommet de l'État, machin. Ça dépend de la peine encourue, ça dépend des décisions qui sont prises, quoi. Cahuzac, mais je sais plus, il a été condamné pour quoi, Cahuzac? Oui, c'était les comptes en Suisse, ça, je me souviens bien. Mais dans quel cadre est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'il a reconnu les faits? Est-ce qu'il a remboursé les sommes dues? Est-ce qu'il a régularisé sa situation? Enfin, je comprends bien que vous avez une perception, vous le détestez, Cahuzac, vous avez tout à fait raison de le détester, il a fait des choses détestables, mais du coup, vous voulez qu'il paye. Vous lui en voulez personnellement, vous voulez qu'il souffre, vous voulez un truc humiliant, vous voulez qu'il aille en prison, etc. Ça, c'est normal. La question, c'est pourquoi il a été condamné? À quel moment? Quelle peine il encourait, qu'est-ce que les débats ont montré, comment il a été jugé, etc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il a bénéficié de plus de sévérité, etc. Mais c'est juste que je peux pas juger simplement sur ma perception de citoyen de oh là là, le salaud de ministre qui a détourné de l'argent, pour savoir s'il mérite ce qu'il a pris ou pas. Donc je sais pas, je sais que les magistrats font un taf difficile. Que c'est pas mécanique, évident, c'est plus subtil. Hein. Vous remarquerez qu'il n'y a personne dans le chat qui a cité Jean-Luc Mélenchon. Je me permets juste de faire remarquer que dans tous les politiques condamnés par la justice, il n'y en a aucun d'entre vous qui a cité Jean-Luc Mélenchon. Ça a pas l'air de vous déranger, sa condamnation en justice. Donc vous voyez, c'est aussi une question de perception. Moi, je veux bien hein, que les politiques du camp d'en face, c'est des salauds, ils devraient aller en prison. Par contre, les nôtres, non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais. Comment dire? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux bien. Hein. Je veux bien. C'est quand on parle de la classe politique, de qui on parle, à quel moment, pour quel délit, etc. Enfin, rentrons un peu dans le détail. Un oubli, ça arrive. Oui, je sais, je sais. Donc voilà, moi je n'ai aucune amitié particulière pour Patrick Balkany, pour Nicolas Sarkozy, pour Jérôme Cahuzac. Je ne les connais pas, je ne les soutiens pas. Voilà, mais j'essaie juste de dépasser cette espèce de cette petite envie un peu malsaine, je trouve, en démocratie, cette envie de vengeance, cette envie de vox populi un peu dégueulasse, qui consiste à sortir la guillotine à chaque fois que j'entends parler d'un délit, sous prétexte que c'est un homme politique, a fortiori que j'aime pas. Moi, je voudrais quand même que les politiques soient jugés de la même manière que tout le monde. Ça veut dire déjà qu'ils soient jugés quand ils commettent les mêmes délits que les autres, mais qu'ils n'encourent pas plus de peine de prison que les autres, en fait. Et pas moins aussi. Ouais, mais enfin, tu vois, regarde là, Nicolas Sarkozy, il y a 7 ans de prison requis contre lui. 7 ans de prison. Je te fiche mon billet que quelle que soit la condamnation, tout le monde va considérer, en tout cas une grande partie des gens, notamment à gauche, vont dire que c'est pas assez. Évidemment. Évidemment. Mais quel que soit le nombre d'années, hein, s'il prend 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est du sursis, si c'est du ferme, si c'est du exécution provisoire, assortie de machin, etc. Voilà. C'est normal. N'importe quel homme politique qui roule à 180 sur l'autoroute ne sera pas inquiété. Alors, n'importe quel homme politique, encore une fois, si vous êtes un député insoumis, je vous déconseille de rouler à 180 sur l'autoroute. La gendarmerie se fera un plaisir de vous allumer et de faire fuiter les infos à la presse. Vraiment. Hein. Puis par ailleurs, les radars automatiques, tu sais, ils discriminent assez peu. Hein. De Logu qui prend des voies de bus en sens inverse. Ouais. Je vois pas le problème, de Logu montre juste qu'il est très bien intégré dans la culture marseillaise en faisant ça. Oh, je suis député de Marseille. On peut considérer que déjà il ne devrait pas y avoir la Cour de justice de la République. Absolument, je suis tout à fait d'accord, il faut supprimer la Cour de justice de la République. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron qui l'a proposé. Je suis d'accord avec toutes les personnes qui souhaitent l'abolition de la CJR, c'est-à-dire absolument tout le monde. Je connais pas un seul parti politique qui est pour le maintien de la CJR. Hein. Faudrait qu'on voit un peu les débats sur le sujet, mais... Marvel Fitness a été jugé aussi sévèrement que Sarkozy ou Cahuzac. Mais ils ont harcelé des meufs, Sarkozy et Cahuzac? C'est quoi le... Il est où le lien? Elle sert à quoi la CJR? La Cour de justice de la République, ça sert à juger les ministres pour les délits qui sont commis dans le cadre de leur fonction ministérielle, en application de la séparation des pouvoirs, de manière à ne pas avoir une chape de plomb du pouvoir judiciaire au-dessus du pouvoir exécutif. Éviter le gouvernement des juges, tout ça. C'est une institution qui a été créée plutôt pour une bonne raison d'ailleurs, parce qu'avant la CJR, il n'y avait que la Haute Cour qui existait et qui n'était jamais réunie, et donc en fait il y avait une espèce d'impunité des ministres. Puis on a créé la CJR qui a eu l'occasion de traiter d'un certain nombre de sujets et d'affaires qui touchaient les ministres. Le problème de la CJR, c'est que les ministres sont jugés par des parlementaires et que ça fait un peu la justice des copains. Et la CJR a une très mauvaise réputation pour cette raison-là, parce que les peines qui sont prononcées sont jugées, encore une fois, par nous, c'est-à-dire les commentateurs, trop faibles au regard de la gravité perçue des délits commis. et qu'en plus, comme les décisions sont rendues par des parlementaires, on a l'impression que tout ça, c'est de la connivence et tout. Donc, pour toutes ces raisons, la Cour de justice de la République, en quelques 20 ans d'existence, je crois, un peu plus, non, beaucoup plus même, a démontré qu'il fallait la supprimer et qu'il fallait que les ministres puissent être renvoyés, selon des procédures qui garantissent la séparation des pouvoirs, devant des juridictions compétentes judiciaires. Donc la CJR va finir par disparaître. Ce qui est plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est jugé communément aujourd'hui comme étant une bonne chose. Mais c'est marrant parce que vous voyez que quand c'est la CJR qui condamne, on trouve que les peines sont trop légères. Et quand c'est la justice qui condamne, on trouve que les peines sont trop légères quand même. Donc c'est bien la preuve que le problème, c'est pas les peines. Le problème, c'est la perception qu'on a. Le problème, c'est peut-être juste que les peines sont trop légères. Alors, on peut effectivement faire de la surenchère pénale. Nicolas Sarkozy s'en était fait une spécialité, d'ailleurs. Il a plus ou moins été élu président de la République grâce à ça. La surenchère. On alourdit les peines et on supprime les tablettes pour les prisonniers en prison qui doivent souffrir, je vous le rappelle, c'est le but. En tout cas, la perception du public doit être celle de la souffrance. Voilà. On n'est pas obligé non plus de considérer que toutes les peines sont trop lourdes. Non, on adapte en fonction de si on aime bien ou pas le prévenu. Toujours pareil, hein. On dirait une expérience sociale de comment transformer une population en gens de droite. Ouais. Est-ce que vous trouvez que les peines de la justice sont trop lourdes? Oui. Pensez aux politiques. Ah non, pas assez. Est-ce que rendre plus fréquentes et lourdes les peines d'inéligibilité ne serait pas une porte de sortie convenable? Non, parce que la peine d'inéligibilité, c'est une peine complémentaire, déjà. Ça doit en aucun cas se substituer à une peine principale, fût-elle d'emprisonnement ou d'amende, premièrement. Et deuxièmement, les peines d'inéligibilité, moi je suis toujours aussi, comment dire, prévenant sur ce truc-là. Parce que c'est un peu une fausse bonne idée qui peut être transformée en arme très facilement pour écarter des opposants politiques. Vous avez vu le maire d'Istanbul qui a été emprisonné là? Comme par hasard, juste avant les élections, comme par hasard, il était favori, comme par hasard. Voilà, vous voyez, on pourrait parler de la Russie aussi. Il est quand même assez coutumier du fait. Donc, l'inéligibilité, moi je veux bien. Mais il faut que ce soit giga contrôlé, il faut faire super attention. C'est plus technique, son diplôme universitaire a été enlevé et il faut un diplôme pour se présenter. Ah, pas mal. Subtil, subtil, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Non, c'est bien, c'est habile. C'est comme au Brésil, il y a plusieurs années, il y avait un parti qui avait proposé que la maîtrise de la langue portugaise soit obligatoire pour voter aux élections. C'est une bonne idée. En termes de cohérence nationale et tout, machin. Non, c'est une bonne idée. C'était surtout une très très bonne idée pour exclure tous les indigènes du processus électoral. Malin. Malin, dis donc. Il n'y a pas eu un truc en Australie du même type? Si. Bah, au moment de la colonisation par les Britanniques, si, sans doute, avec les aborigènes. Donc la morale de l'histoire, c'est que avant de s'émouvoir de la légèreté des peines qui sont prononcées contre les hommes politiques, faut quand même un peu s'informer sur le dossier hein, pour savoir exactement quelle était la peine qui était encourue, quelle était la peine qui était requise par le parquet, quelles étaient les circonstances présentées par la défense, machin. Et puis il faut se poser la question de est-ce que je l'aime bien ou pas ce politique, au demeurant? Est-ce que j'ai pas un peu en moi une envie qu'il en prenne plein la tronche? Ou je changerais radicalement de discours si d'aventure il s'avérait que le politique en question était de mon parti à moi? Ou là, je ferais preuve d'une mansuétude impressionnante. C'est le boulot des juges, ouais. Ouais, bien sûr. Je retourne la question, un gars comme Trump doit-il être éligible? Ah ça, c'est une bonne question, ça. Mais le problème, c'est que dans le laps de temps entre l'élection, entre la tentative de coup d'État et l'élection suivante, je vous rappelle qu'il n'y a que 4 ans, et que la justice américaine n'a pas eu l'occasion, je crois, de condamner définitivement Donald Trump. C'est aussi un problème de délai de la justice, pour le coup. Donc. Je sais pas. Déjà le concept d'immunité. Non, alors l'immunité, si non, mais ça, là quand même aussi, l'immunité, si je pense que c'est important. Quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, ce que je souhaite, j'espère bien qu'il pourra présider la République sans être inquiété tous les 4 matins, déféré devant un juge d'instruction, pour à peu près tout et n'importe quoi que lui reprocheront tous ses opposants. J'espère bien qu'il bénéficiera de l'immunité présidentielle. J'espère bien que les députés, quel que soit leur banc, bénéficieront d'une immunité parlementaire pour, là aussi, ne pas être sous la coupe de pression judiciaire qui pourrait leur être faite par des groupes d'intérêt, quels qu'ils soient. Donc tout ce que je viens de dire est valable pour Emmanuel Macron, on est d'accord. C'est pas juste pour Mélenchon. Évidemment, j'ai utilisé le nom Jean-Luc Mélenchon pour vous amadouer, parce que je commence à vous connaître. Vous avez compris que ce que je dis est tout à fait valable également pour le président en exercice actuel. Oui, l'immunité pré... Oui, l'immunité, ça sert à quelque chose. C'est pas. Ou pour Marine, si jamais. Bah, président de la République en exercice. Par contre, on peut aussi supprimer la Cour de la République. Oui, non, mais ça, on l'a déjà dit. Oui, il faut supprimer la Cour de justice de la République. Ne faites pas l'erreur de croire que parce qu'on aura supprimé la Cour de justice de la République, les politiques seront plus condamnés et à des peines plus lourdes. Hein. C'est pas... Notre perception ne change pas en fonction de la Cour. Tribunal judiciaire, Cour de justice de la République, dans les deux cas, on est déçu quand un homme politique qu'on n'aime pas est condamné à une peine que l'on juge trop légère, sans s'être préalablement informé sur le dossier, évidemment. Qu'est-ce qui empêche la République des juges sans CJR? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas ce qui était prévu dans le projet de loi constitutionnel en 2017, 2018. Je crois qu'il y avait des mécanismes qui garantissaient la protection, en gros l'immunité parlementaire. L'immunité, enfin, c'est pas une immunité, mais les délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Je crois que le Parlement était associé à la justice dans la prise de décision de la capacité de l'instruction à déférer le prévenu. Je sais plus exactement quel, mais en gros, l'idée, c'est d'inventer des garde-fous. Donc, c'est pas la CJR qui n'a pas condamné Darmanin. Oui, voilà, c'est ça. C'est, si vous détestez Darmanin, qu'il y ait CJR ou pas, il a juste pas été condamné. Donc, de toutes les manières, vous serez pas content. Donc, c'est pas propre à la CJR de pas condamner les gens, quoi. Mais encore une fois, je vous rappelle, c'est intéressant parce que la CJR aujourd'hui que tout le monde déteste, c'est quand même utile de rappeler que ça a quand même été un progrès quand elle a été créée. Hein. C'est pas une horreur institutionnelle qui a été créée par les politiques pour se protéger entre eux. C'est vraiment un truc où avant il y avait pratiquement rien, donc c'était déjà un progrès au moment de la création de la CJR. C'était la reconnaissance de la nécessité de bénéficier d'une responsabilité pour les ministres qui engagent leurs actes, etc., etc. Donc c'était bien à l'époque. Bon, et ben maintenant la société a encore plus évolué et maintenant on en vient jusqu'à sa suppression pour aller encore plus loin. Très bien. Il y a très très peu de condamnations dans les faits. Parce qu'il y a très très peu de délits aussi, c'est-à-dire c'est aussi ça le... Vous croyez que les politiques, ils font des délits matin, midi et soir? Je sais que c'est une perception qu'on a en plus, on adore parler de classe politique, on ne sait jamais très très bien qui il y a dedans. C'est un anti-élitisme un peu recuit. Les politiques s'en foutent plein les fouilles, les politiques commettent plein de délits, etc. En fait, c'est aussi factuellement faux. C'est-à-dire que les politiques, la plupart, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils bossent, ils font leur truc. Je ne dis pas que vous serez d'accord avec ce qu'ils font, hein, mais je dis qu'ils sont honnêtes, en fait. Ils font leur travail. Ils font avancer des dossiers, ils font avancer des législations et tout. Ils débattent, ils organisent, ils machin, ils avancent. Ils ne sont pas en train de chercher à s'en foutre plein les fouilles matin, midi et soir. Donc... On peut s'accrocher à l'idée, vous avez le droit de vous accrocher à l'idée qu'ils commettent des délits toute la journée et que la raison pour laquelle ils sont relativement peu condamnés, c'est parce que le système les protège. C'est 100% du complotisme. Mais vous avez le droit de vous accrocher à cette idée-là et de jamais la lâcher et de vous dire, de toute façon, on est au courant que de 5% des affaires, tout est caché, masqué, le système essaye de nous empêcher de voir la réalité, qui est terrible, etc., 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 etc. Vous pouvez passer une vie entière comme ça, à ne penser que ça. Vous pouvez aussi regarder les choses. La France est en train de reculer sur le thème de la corruption à cause des entreprises privées qui en font de plus en plus. Et si le cadre législatif peut être amélioré pour les politiques, certainement, c'est pas non plus la foire à l'argent liquide dans les cabinets ministériels. Désolé de vous décevoir. Tu veux nous dire que les politiques sont des humains comme les autres et pas des reptiliens qui cherchent à faire des délits en cachette? Mais non, mais j'ai regardé la vidéo de ContraPoints sur le complotisme et effectivement, ça commence à être un peu chiant, le discours complotiste là, qui a explosé à partir de 2005. On est en 2025, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a les mêmes grosses ficelles sur Internet, matin, midi et soir. Bon. Et l'adrénochrome alors? Tu veux dire que tous ces gens ne nous veulent que du bien? Qui ça, les politiques? Ben oui. Probablement pas d'accord sur la définition de bien, mais... Voir des magouilles partout est autant un problème que de n'en voir nulle part. As-tu dire que la vérité est quelque part au milieu? Entre les faits et les croyances, on va viser pile poil au milieu, puis on devrait être pas loin de la vérité, c'est ça? L'homme est un peu allé sur la Lune, un peu. Mais pas trop. L'effet qu'il y en ait zéro. Ouais, c'est ça. Vous savez, un politique qui n'est pas mis en examen, c'est un politique qui cache quelque chose. J'ai pas raison, la team? Tous corrompus. Ah non, mais tous corrompus, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Tu es corrompu, Jean? Ouais, seuls mes lecteurs peuvent m'acheter. Moi, je suis comme Mediapart. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Twitch. Vous deviendrez corrupteur en chef. Enfin, en chef. Pas sûr, mais en tout cas corrupteur de première classe. Du streamer. Je savais. C'est une bonne situation, ça, corrupteur? Bah, abonne-toi, tu verras. Le club backseat, c'est la secte des corrupteurs. Exactement. Le club backseat, c'est les c'est les orgies pédosatanistes. Mais non, mais c'est la vidéo de ContraPoints là qui m'a cramé le cerveau parce que on replonge dans le complotisme américain le plus banal. Et vraiment, nos complotistes n'ont pas de talent. Nos complotistes n'ont pas de talent, donc ils inventent des trucs. Mais vraiment, les gars. c'est mal écrit. C'est mal écrit. Travaillez avec des scénaristes un peu pour imaginer des trucs. Parce que là, vos histoires d'orgies satanistes avec des politiques qui mangent des bébés pour boire leur sang parce que l'adrénochrome, c'est mauvais. C'est pas une bonne science-fiction. On va retravailler le texte, chérie. On va réécrire un petit peu parce que là, non, personne n'y croit, c'est nul. Pourquoi sataniste en plus? Enfin, c'est un peu vu et revu. C'est l'antagonisme du diable et tout. On en est encore là, vraiment? Non, mais les gars. Alors que Raël, mais non, mais Raël, pareil, pardon, excuse-moi, mais Raël, le bouquin est nul. Hein. Le coup des extraterrestres, là, les Elohim. Qui l'ont emmené sur leur planète pour lui dire qu'il était le... Dans une soucoupe volante. Vraiment, la soucoupe volante, on est encore à l'âge de la soucoupe, là? On en est encore là? Non, vraiment... Ouais, Sylvain Durif. Sylvain Durif, pareil, pardon. Hein. Je suis le Christ cosmique, faut m'envoyer de l'argent. J'habite au Sénégal, bah... Pas ouf la story, hein. On adhère pas, on contracte pas, c'est pas bon. Ah bon, c'est pas vrai. Non, fallait pas envoyer d'argent. T'as envoyé de l'argent à Sylvain Durif? Fallait pas. Je suis désolé, hein, si tu l'as fait. J'ai jamais eu le reçu fiscal. Alors que dire que le gouvernement américain dirige le monde depuis un groupe Facebook? Vous imaginez si les... Si les... Vous imaginez si les plus grosses décisions militaires américaines étaient prises sur des groupes Signal? Vous imaginez... Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est une blague, mais vous imaginez? Ce serait ouf quand même. Non, mais ils sont pas bêtes à ce moment-là, faut pas déconner. Personnellement, je ne les crois pas honnêtes sur leur déclaration de bien. Gage est en négatif car il loue son appart à la frontière suisse et surtout il vient de s'acheter une C3 en leasing. Bizarre. Moi aussi, mais en HLM payant encore ma 108, je ne suis pas en négatif. Quid? Hein? Attends, t'as lu la déclaration d'intérêt d'un député? Tu l'as comparé à ta situation à toi? Et tu en déduis qu'il n'est pas honnête. D'accord. Heureusement qu'on a des magistrats un peu plus capés quand même hein, pour lutter contre la corruption. Enfin, je veux dire, c'est un travail hein, d'éplucher les factures et tout, de checker les... Non, non, vraiment... Merci Ngaya. Merci. Attends, sa source est Thinkerview. Oui, alors par ailleurs. Si on peut être sérieux 2 minutes aussi. Après, Thinkerview, lui, il a compris le narratif qui marche sur Internet. Hein. Le narratif conspi, le narratif hors système. Hacker, tout ça. Bon, bah oui. Oui, ça marche bien, oui. Ce qui est beau avec Internet, c'est que maintenant tout le monde est un expert de tout et a un avis sur tout. Si tu veux mon avis, il n'a pas fallu attendre Internet. Hein. Il y avait le PMU avant ça. Ouais, il y avait le PMU, il y avait des émissions de télévision, il y avait des journaux, il y avait des publications. Hein. Le nouveau détective et tout, si tu voulais te faire une opinion. Oui. Oui, tout à fait. On est bien entre gens éduqués. Parle pour toi, hein. Je te rappelle que moi je suis juriste, hein, c'est quand même niveau zéro en termes de réflexion le droit. Hein. Donc pas des intellectuels. Hein. T'as vu la gueule du chat? Non, je déconne, j'arrête. Non, c'est bon, c'est bon. C'est une blague, c'est une blague. On a le chat qu'on mérite. Ouais, je sais, je sais. Je suis à l'image de ma communauté. Mal rasé. je sais pas comment le prendre. Bah, le prends pas parce que t'es trop con pour le prendre. Donc, non, je déconne, j'arrête. J'arrête, j'arrête. C'est ça qui est bien avec notre bêtise commune, c'est que tout nous glisse dessus. C'est les complotistes qui détiennent la vérité. Nous, je vous rappelle hein, que vous et moi, on est plongés dans le noir. Hein. Eux, ils ont la lumière. Nous, on est là, on cherche à comprendre un monde dont on saisit à peine les contours. Eux, ils ont la clairvoyance. Eux, je vous rappelle que c'est l'aigle. Hein. Nous, on est le petit. Petit quoi déjà? Je sais, bref. Slash ban Jean Massier. Ver de terre. C'était ver de terre qu'elle disait? On est le petit ver de terre et je suis l'aigle. Non mais on va continuer. On va continuer. Quand même, à s'intéresser à l'actualité politique sur cette chaîne. On va continuer à essayer de progresser intellectuellement jusqu'à, je le souhaite pour moi comme pour vous, jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau de clairvoyance sur le monde qui nous permettra de voir le complot. On n'y est pas encore, on galère, on cherche, hein, mais un jour peut-être, on finira sur Facebook. C'est ce que je nous souhaite collectivement. On va y arriver, les gars. Il faut qu'on continue à regarder un peu ce qui se fait, l'actualité, les lois et tout machin, le gouvernement et tout. Voir la matrice. Ouais, voilà, c'est ça, voir la matrice. On y met du cœur, hein. On y met du cœur, hein, sur cette chaîne. On essaye, voilà, on se perfectionne un peu. Est-ce que tu intervieweras des complotistes pour me permettre de voir la lumière? Non, on va partir du principe qu'on est trop bas niveau pour eux. Les complotistes, ils s'expriment dans des médias de... Voilà, on est quand même sur Facebook, tu vois. Ils font des lives Facebook. Donc j'arriverai jamais à les avoir, c'est pas possible. T'as clairement pas le niveau. Bah non, 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 j'ai pas le niveau. Si t'arrives à avoir Retailleau, bah écoute, on croise les doigts, hein. Un de mes anciens supérieurs centralien est expert OVNI et communication intergalactique. Source, sa chaîne YouTube.
Sérieux?
Il a fait central, le mec? Et aujourd'hui, il communique avec les extraterrestres? T'as vu la gueule de ton élite? non, non, mais j'ai voilà, hein. C'est la prépa, ça rend zinzin. Non, non, mais bon, voilà. Moi, je me souviens, au lycée, en cours de SVT, j'avais fait un exposé avec une camarade de classe. On avait fait un exposé ensemble sur Pasteur, sur Louis Pasteur. Les travaux de Louis Pasteur, comment il avait découvert le vaccin, la vaccination, etc., machin. Voilà, c'était un exposé en cours d'SVT classique au lycée. Truc bidule. Donc on était allé au CDI et puis on avait fait des recherches, on essayait de comprendre machin, Pasteur et tout ça. Bon. Des années plus tard, mais vraiment des années plus tard, 2020, il se trouve que moi je fais partie de la première génération Facebook, donc je suis encore ami avec tous mes copains de, enfin mes copains, mes camarades de classe du lycée. Et elle, à qui je n'ai pas parlé depuis 15 ans. Et ben elle a commencé à poster tous les trucs complotistes anti-vax possibles. Y compris contre l'Institut Pasteur. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais meuf, on était ensemble au CDI. Genre, on l'a appris ensemble, toutes ces histoires, la Pasteur, la vaccination, comment ça marche, l'utilité du truc, les cohortes, enfin, je sais pas, c'est. Enfin, j'ai pas l'impression que, si je me souviens bien, on était convaincus, toi et moi, que enfin, genre, c'est bon, c'est l'histoire, enfin, c'est intéressant, il se passe des trucs et tout. Ben non. Elle a vrillé 15 ans plus tard, elle est devenue anti-vax. Dommage, hein. Elle dormait en cours. Mais non, elle pouvait pas dormir en cours. Parce que c'est nous qui faisions le cours, c'était un exposé, genre vraiment. Pendant le Covid, ouais, pendant le Covid, c'était une camarade de classe, hein, c'est une camarade de classe lambda, voilà, elle a fait sa vie après le lycée comme moi, on a fait nos vies, quoi. En fait, sur cette chaîne, vous êtes des rageux et vous critiquez les gens, vraiment, c'est malsain. Bienvenue en politique. Installe-toi. Effectivement, sur cette chaîne, on parle d'actualité politique. Et il y a effectivement disons, une culture de la critique, positive ou négative, vis-à-vis des personnalités politiques. Bienvenue à toi. T'as fait le vaccin Covid? Oui, j'ai fait le vaccin Covid. Pourquoi fallait pas? Non, non, on va pas non, 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 on va pas retourner dans ces débats à la con. Ça a duré beaucoup trop longtemps le confinement sur cette chaîne. Vous vous souvenez de l'hydroxychloroquine, où personne n'arrivait à l'écrire correctement dans le chat? Le débat. Vous vous souvenez du débat sur l'hydroxychloroquine? Parce qu'il y a eu un moment quand même dans l'histoire de France, hein, il y a eu un moment, hein, où il a fallu que toute la France se positionne. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'hydroxychloroquine. C'était en boucle sur le plateau de BFM. Vraiment, toute la France ne parlait que de ça. Professeur Raoult, sauveur de l'humanité. Il y avait quand même des politiques qui prenaient la parole sur des plateaux télé ou en interview pour accorder leur confiance au professeur Raoult. Le mec était adoubé par une partie de la classe politique et tout. Mais putain, les pays tarés. Et nous, on écoutait ça en essuyant nos courses. Ouais, on a vécu ça. Et nous, on était en stream et on faisait des blagues. En ce temps-là. Parce qu'il fallait bien réussir à survivre. Donc, on faisait des blagues un peu nulles dans le chat. On essayait de suivre l'actualité politique. Les allocutions de Macron, évidemment, en direct. Les allocutions de Macron, il fallait se laver la main avec se laver les mains avec du savon. Le truc surgelé, disait Mélenchon avec le vaccin. Ah oui, je me souviens. Il parlait du truc surgelé. En parlant du vaccin, et Mélenchon, il disait qu'il voulait avoir le choix, et que s'il avait, il voulait pas n'importe quel vaccin, il voulait avoir le choix, et que s'il avait le choix, il prendrait le vaccin russe, le Spoutnik. Ah oui, on est passé par là aussi. Quel vaccin tu préfères? Je me souviens, ouais. Sacré cirque, ah ouais, non, mais c'était glauque, hein. Avec Nicolas Dupont-Aignan qui portait son masque à l'envers et tout. La fatigue. Florian Philippot qui s'est pris pour le leader de la résistance. Ok, Jean Moulin. Francis Lalanne, évidemment. Non, on a vécu une belle époque, hein. On a vécu une époque. C'était pas facile. En vrai, on rigole, hein, rétrospectivement. C'était pas marrant. Hein. Renault. Ah oui, Renault. Connard de virus. Si, non, si, attends, très drôle. Vous vous souvenez de Pierre-Jean Chalençon, qui faisait des. Il faisait des dîners payants, alors que c'était interdit, pendant le confinement. Et qui était passé en direct sur Canal pour reconnaître le délit en direct. Oh merde! Et cette espèce de débile là qui s'est retrouvé sur toutes les télés au cœur de la polémique. Oh. Le restaurateur qui avait crié liberté devant son dans son resto. Oui, je me souviens, liberté. La liberté des restaurateurs qui voulaient pas entendre parler de confinement et tout. Bah, rien à foutre, moi c'est mon restaurant, je fais ce que je veux. Oui, le mec qui avait gueulé liberté parce qu'il y avait une caméra qui était là. Brevard, ouais, c'est ça, je pensais à Brevard. Tu stressais à cette époque? Moi, j'étais dans mon ancien appart. Est-ce que je stressais? Non, je stressais pas. Après, moi, tu sais, moi, je suis streamer. Hein. On va pas se mentir, le confinement, ça s'appelle un lundi pour moi. Tu vois, c'est pas. J'étais pas inquiet pour mes activités. Je vous rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de gens sur Internet, hein, parce qu'on avait que ça à foutre. Donc, du coup, pas mal d'audience sur YouTube, sur Twitch et tout. C'est à ce moment-là que Samuel Etienne s'est lancé sur Twitch, d'ailleurs. Donc, non, moi, je stressais pas. Par contre, je me souviens que j'avais le moral à zéro. Hein. C'était pas marrant. Hein. Heureusement que je streamais, parce que. Heureusement qu'on discutait, vous et moi, comme ça, à bâton rompu, sur le chat, pendant le confinement, parce que c'était pas drôle. Hein. C'est facile de te moquer des restaurateurs quand t'es streamer. Vas-y, je me moque pas des restaurateurs déjà. Je me moque des restaurateurs qui se prennent pour des résistants en ouvrant leur établissement pendant qu'il y a un virus mortel qui circule. Ouais, pardon. Oui. Regardez les graphiques de Véran. Putain, Olivier Véran. Olivier Véran, matin, midi et soir. Le conseil scientifique. Qu'a dit le conseil scientifique? Oh là là. Un avis sur Colère qui va partir. Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, va partir de l'Élysée après 8 ans. de travail. On est en train de formaliser son arrivée sur Backseat. On est en train de régler les derniers détails administratifs. Mais on va pas, on l'a pas encore annoncé. Donc, je vous ai rien dit. On verra ça plus tard. Pas de backseat ce soir, non, pas de backseat ce soir. Justement, ce soir, je vais à l'Élysée pour. Non, mais c'est pas du tout, vous êtes fous, quoi. Ouais. Non, j'ai pas d'avis sur le départ d'Alexis Kohler de l'Élysée. Hein. On verra où il va. Alors, il a annoncé qu'il allait rejoindre la banque. Il va chez la Société Générale, je crois. On a plus de morts qu'en période Covid, les noobs. C'est nous les noobs? Ah merde. Mais je t'ai dit, on essaye de progresser. On a du mal à se hisser au niveau du complotisme. Parce qu'on est chiant. En fait, on passe notre temps à chercher la petite bête, la compréhension, la rationalité et tout. Colère, il a surtout refusé d'être auditionné. En commission d'enquête, ouais. Parlementaire. Ce que je comprends, enfin ce que je comprends, c'est un peu touchy, mais l'irresponsabilité politique du président de la République, à mon sens, ça peut aussi couvrir le secrétaire général de l'Élysée. Ça me paraît pas absurde. Que le plus haut responsable administratif d'une institution couverte par l'irresponsabilité politique soit pas amené à rendre des comptes devant une commission parlementaire. On parle sans avoir vu Hold Up, on est nul. Ouais. Là, ça fait vraiment des eaux pas concernées. Honnêtement, je ne sais pas. C'est un point intéressant de procédure. Est-ce que le secrétaire général de l'Élysée est couvert par l'irresponsabilité politique du président de la République et donc ne doit pas se rendre à une convocation éventuelle d'une commission d'enquête parlementaire? Parce que je vous rappelle que le président de la République n'a pas à rendre de compte au Parlement. C'est un point intéressant, j'essaie de réfléchir d'un point de vue de l'indépendance du Parlement, de son autonomie, de sa capacité d'action. On avait déjà eu ce débat au moment de l'affaire Benalla, hein, sur quelles sont les limites de la couverture du travail de l'Élysée et du contrôle par le Parlement du travail de l'Élysée, qui ne saurait en aucun cas être un travail politique, pourrait éventuellement être un travail administratif, sur les dépenses notamment, mais... Pff. Si c'est le cas, tu pourrais déstabiliser en permanence le président. Bah exactement. Toujours pareil, hein. Si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, est-ce que le Rassemblement national pourrait faire obliger de témoigner le secrétaire général de l'Élysée de Jean-Luc Mélenchon dans une commission d'enquête parlementaire? Ben j'espère bien. Ben moi j'espère pas. Le contrôle de la présidence de la République par proxy par les parlementaires ne me semble pas être une excellente idée. C'est pas le rôle des parlementaires?
Non.
Non, les parlementaires ne contrôlent pas l'Élysée. Heureusement, il y a une séparation là aussi assez stricte en termes de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. C'est pas les parlementaires qui dirigent l'Élysée. L'Élysée est issue du suffrage universel direct. L'Assemblée nationale, le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Il n'a pas à rendre de compte à l'Assemblée nationale. Il n'a pas à répondre aux questions des députés. Il n'a pas à s'expliquer. Il n'a pas à obtenir de vote. Ça ne marche pas comme ça. Alexis Kohler n'est pas élu. Non, mais il est secrétaire général de l'institution, donc il y a un moment, moi je veux bien. Donc Kohler n'est pas un citoyen comme les autres. Bah non, il est secrétaire général de la présidence de la République, c'est pas tout à fait similaire, mais de la même manière qu'un magistrat, je vous rappelle qu'un magistrat n'a pas de compte à rendre au Parlement, hein. Vous imaginez le président de la Cour d'appel de Paris sommé de venir s'expliquer par les parlementaires? Mais hors de question, jamais. Indépendance de la justice, enfin tu vois, c'est... Faut faire super attention à ces trucs-là. Justement, Kohler était présenté en commission d'enquête en 2019 lors de l'affaire Benalla au Sénat, effectivement, Alexis Kohler s'était présenté. Et il avait expliqué à l'époque que la question de la sécurité du président de la République ne relevait pas du rôle politique du président de la République. Donc c'est... Mais effectivement, en fait, c'est une jurisprudence qui s'écrit devant nos yeux. Hein. Il n'y a pas de règle en l'état actuel. Il faudrait peut-être que le Conseil constitutionnel se prononce sur le sujet. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les procédures possibles entre le Parlement et le Conseil constitutionnel sur des points de procédure comme ça. Pourquoi c'est aussi compliqué? Je comprends rien. Parce qu'on est en train de manier des concepts extrêmement importants et sensibles, comme l'indépendance, comme l'autonomie, l'irresponsabilité, la séparation des pouvoirs, la liberté, les institutions, etc., etc., etc. Donc oui, effectivement, c'est complexe. Mais la complexité, elle sert pas de, elle n'a pas d'auto-justification. Elle cache des principes importants avec lesquels il faut faire attention. On ne joue pas trop facilement avec tout ça. Et le Premier ministre, est-ce qu'il doit rendre des comptes au Parlement? Évidemment, le Premier ministre, à la grande différence du président de la République, le Premier ministre est contrôlé par le Parlement. Il rend des comptes chaque semaine, notamment sur ma chaîne Twitch, devant le Parlement. Et je vous rappelle que le Parlement peut censurer le gouvernement. Le Parlement ne peut en aucun cas censurer le président de la République. Certainement pas. Mais le Premier ministre, oui. C'est un peu abusé de considérer que toutes les personnes choisies par le président pour l'assister dans le pouvoir exécutif non responsable devant le Parlement. Le président, oui, n'a pas à rendre de compte au Parlement, mais les personnes non élues, ça ne me dérange pas qu'elles puissent être contrôlées par des personnes élues perso. Oui, mais c'est absurde si tu n'as que le président de la République à l'Élysée qui est irresponsable. Il n'est pas tout seul à faire son travail, il a un cabinet, il a des gens qui travaillent avec lui. C'est... Ça n'a pas de sens. « L'immunité présidentielle est étendue à son personnel. Eh bah, ben, c'est toute la question. C'est toute la question. J'ai pas la réponse, hein. Vous avez bien compris que j'ai pas la réponse. C'est une question qui est posée actuellement dans le cadre précis d'Alexis Kohler sur jusqu'où s'étend l'immunité du président de la République, ou plutôt son irresponsabilité politique, vis-à-vis des personnes qui travaillent avec lui. La réponse n'existe pas à l'heure actuelle. La question s'était pas posée jusque-là. Voilà. Moi, j'ai un problème déjà avec l'irresponsabilité et l'immunité du président. Ton problème, c'est l'irresponsabilité et l'immunité de la présidence de la République française, ou c'est l'irresponsabilité et l'immunité d'Emmanuel Macron? Pas tout à fait la même chose. Benalla, il était couvert par ça. Bah, à l'époque, ce qu'avait dit l'Élysée, c'est que l'Élysée s'était mise à disposition de la commission d'enquête du Sénat en expliquant que la question qui était soulevée, que le cadre de la commission d'enquête du Sénat, c'était d'enquêter sur les conditions de la sécurité du président de la République. Qui assure la sécurité du président de la République? Qui sont les agents qui entourent le chef de l'État? Comment sont-ils recrutés? Comment sont-ils contrôlés? À qui rendent-ils des comptes? Etc. etc. Et ça, l'Élysée avait estimé que ça ne touchait pas au cœur de l'action politique du président de la République, que disons que c'était un sujet annexe, et que, il n'y avait pas de problème avec les responsabilités politiques de la présidence de la République. De mon souvenir, c'était comme ça que l'Élysée avait dit, bon, bah oui, on peut travailler sur. Le parc de bagnole du président de la République, l'avion présidentiel, tout ça, c'est très intéressant, mais ça touche pas au cœur de l'action politique. Le secrétaire général de l'Élysée, lui, il est au cœur de l'action politique. C'est pas le garde du corps. Suis pas sûr de comprendre le principe d'immunité et comment ça s'applique. Le principe d'immunité, c'est un principe de séparation des pouvoirs et d'équilibre des forces qui garantit à une autorité de ne pas être inquiétée par un pouvoir avec lequel elle peut se trouver en opposition. Parfois, ça peut arriver. Par exemple, les parlementaires font la loi. Il faut donc les protéger contre la tentation que pourraient avoir des juges de leur faire pression. Pareil pour le président de la République. Le président de la République, il est garant de l'équilibre des pouvoirs et de la séparation des pouvoirs, la garantie des droits, le fonctionnement régulier des institutions, y compris l'institution judiciaire. Si les juges pouvaient, en un claquement de doigts, mettre en examen le président de la République, l'envoyer en détention provisoire, ou je ne sais quoi, pour quelque raison que ce soit, pour des suspicions, des machins, même avec des preuves et tout, le président de la République serait plus président de la République. Ce seraient les juges qui dirigeraient le pays, en réalité. C'est eux qui auraient la force, c'est eux qui auraient le pouvoir. Donc il faut protéger nos institutions de ces risques-là. Peu importe ce qu'il a fait, Nicolas Sarkozy ne doit pas aller en prison. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi spécialement lui? Et comment on protège les juges du président? Qu'est-ce qu'il peut faire le président contre les juges? Ça marche pas comme ça, hein. Pas... président de la République n'a pas la possibilité d'envoyer les gendarmes cueillir à 6h du matin un juge chez lui. Ça n'existe pas, ça. Sept ans requis contre Sarko, le retour du septennat. Pas mal, pas mal. J'y avais pas pensé. Qui nomme le procureur de la République? C'est le Conseil supérieur de la magistrature, non? Ou alors c'est le garde des Sceaux sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature? Un truc comme ça? J'ai un doute. Il y a des juges qui se suicident de deux balles dans le dos des fois. D'accord. Ok. Avec l'extrême droite aux portes du pouvoir, avoir un président qui peut prendre des décisions non démocratiques et anti-républicaines, avoir une institution qui le contrôle, ce serait pas mal. Alors, non. Mais ce qui serait pas mal, c'est que le président ne puisse pas prendre des décisions antidémocratiques et non républicaines. C'est ça l'indépendance du juge. L'intérêt de l'indépendance du juge, c'est ça. Le juge, il applique la loi, il n'applique pas la volonté du président. Pareil pour le Parlement, d'ailleurs. Du coup, le président de la République peut-il être poursuivi après son mandat comme Sarkozy? Pas pour des actes qu'il a commis dans le cadre de ses fonctions. En l'occurrence, dans l'affaire Kadhafi, c'était le financement de sa campagne présidentielle avant son élection. Dans quelle mesure ce qui se passe aux États-Unis pourrait arriver en France au vu de nos institutions? Elle est assez solide, la cinquième, pour résister à un Trump français ou pas d'après toi? Non. Non, 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 elle n'est pas solide, la Ve République, et c'est pas une question de solidité de République, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 51% des électeurs qui décident d'élire un Trump, il a de fait un pouvoir phénoménal de nuisance. Parce qu'il a un pouvoir politique important, un pouvoir d'influence. Et c'est facile de faire des dégâts. C'est difficile à construire une république, c'est très facile à détruire. On le voit d'ailleurs un peu aux États-Unis en ce moment, on le voit en France. D'ailleurs, il ne faut pas attendre l'élection d'un Trump pour avoir du Trumpisme en France, hein. Regardez ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale où les députés sont en train de voter pour la simplification du pays et ils sont en train de voter pour supprimer des autorités indépendantes, pour voter des agences, suppression de l'ADEME, suppression diverses et variées. On a quand même pas mal de garde-fous. Comment te dire? Oui, on a des garde-fous, mais les garde-fous, ça protège pas éternellement, hein. C'est pas une digue impossible à surmonter. C'est-à-dire que la résistance à l'extrême droite, c'est pas des institutions qu'il faut l'attendre. C'est de l'ensemble de la société. C'est la culture, c'est les médias, c'est l'opinion publique, c'est l'adhésion à des associations, c'est la solidarité. Faut pas juste attendre du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État qui prennent des décisions pour nous, hein. À un moment, faut monter aux barricades, quoi. C'est Donc Donc oui, effectivement, non, mais c'est, je ne veux pas évacuer la question, c'est un sujet intéressant, la solidité des institutions, l'autonomie de la justice, sa capacité à agir. Ça dépend aussi de son financement, hein, c'est pas non plus magique. Il y a des décisions qui doivent être prises. Non, la capacité du Parlement à agir, on a une constitution, on peut la tordre, on peut la respecter à moitié, on peut faire plein de trucs. Mais pour autant, c'est à la société de résister, hein, c'est pas. Garde-fou, garde-fou. Donc, rien n'est gratos, tout se paye et la montée de l'extrême droite, c'est pas que un enjeu institutionnel. Ça en fait partie, mais bon, voilà. Comme beaucoup de choses, ça dépend de la bonne volonté des acteurs. Ouais, exactement. La République, ça existe que s'il y a des républicains. Hein. Alors, franchement. T'as une majorité d'électeurs qui veut voter pour l'abolition de la République, au bout d'un moment, elle va pas résister très longtemps, hein, elle peut pas. Et c'est pas en jouant aux jeux vidéo qu'on va la défendre, la démocratie. Non, je déconne. Hein, la Gen Z sur TikTok. Peut-on voter pour abolir la démocratie? À terme, oui, tu peux pas l'empêcher, oui. Gen Z sur Twitch. Je joue aux jeux vidéo, mais après je lis ton bouquin, ça passe ou pas? C'est bon, toi t'es exonéré. C'est pourquoi le délibéré Sarkozy? Je sais pas. Vous avez l'info, vous, dans le chat ou pas? Parce que je suis en train de chercher sur un article, mais je. Fin de l'année? Fin d'année scolaire ou fin d'année civile? Décembre? Ouais, ok. Ok. Bon. Eh ben, on aura le résultat en décembre prochain. J'ai vu passer un soi-disant retour des Anonymous. C'est vrai ou pas? Quel impact possible? Oh, les anonymes en mousse! Les Anonymous! Ils reviennent! C'est trop mignon comme mouvement, les Anonymous. Oh, c'est vieux, hein, putain, ça fait 20 ans quand même. Et ils vont revenir avec des vidéos un peu cryptiques, avec une voix robotique, pour nous dire nous sommes Légion. Je me souviens, il y avait des gens un peu paumés en manif qui mettaient des masques Anonymous, des Guy Fawkes là. Guy Fawkes, pardon. Et c'était un peu le cringe. Pas grand monde qui les prenait au sérieux. Expect Us. Ouais, c'est ça, Expect Us. Ils s'en prennent à l'administration de Trump.
D'accord.
Mais comment dire? Ça a toujours été un peu ridicule, les Anonymous. C'est pas le truc le plus dingue que 4chan ait créé, tu vois. Autant que QAnon, là, malheureusement, ça a eu un impact terrible, au demeurant. Mais les Anonymous, je me souviens que dès le début, c'était un peu de la merde, quand même. Après, il y a eu des trucs plus sérieux qui sont arrivés avec Occupy Wall Street, par exemple. Enfin, il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements en Espagne, en France, aux États-Unis, au Canada, etc., qui étaient un peu plus structurés politiquement. Mais les Anonymous, au début, c'était de la merde, quoi. Complètement dépolitisant. Ils revendiquent les trucs, les Anonymous. Bah, de ce dont je me souviens, les Anonymous, ils avaient plus ou moins une plateforme intellectuelle autour de la liberté des libertés numériques, contre la surveillance de masse, pour la démocratie. Voilà, quoi. C'était pas incroyable. Alors après, plus spécifiquement, ils luttaient contre le crime organisé, ils ont fait des opérations pour s'en prendre à des gens qui torturaient des animaux, de la pédocriminalité, etc. D'accord, très bien, super. Justicier du web, tout ça, tout ça. Contre la scientologie aussi, oui, c'est vrai, t'as raison, contre la scientologie. Ils en ont fait des caisses, bon, voilà. Mais enfin, bon. Au moins, ils font pas de mal. Bah, ils font pas de mal, ils font pas de mal. Les Anonymous, c'est des justiciers. Hein. Vous connaissez comme moi le problème des justiciers, c'est que c'est pas tout à fait la justice, les justiciers. C'est ce que eux estiment être la justice. Donc, s'il y a des Anonymous qui décident de s'en prendre à une organisation parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça, bah, il n'y a rien que tu puisses faire, ils ont décidé. Et que ce soit juste ou injuste. Donc, c'est pas incroyable, hein, Donc non, 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 je savais pas du tout qu'il y avait une velléité de retour des Anonymous. J'avais vraiment l'impression qu'ils appartiennent maintenant au livre d'histoire d'Internet, quoi. Ça a été un mouvement, hein, ça a été un moment d'Internet, de l'époque d'Internet, les Anonymous. Pour moi, c'est cuit et recuit, hein. Batman, c'est un justicier, Batman, c'est un méchant ou un gentil. Ah bah moi je pense que Batman, il faudrait qu'il soit auditionné par des enquêteurs de la police, notamment vis-à-vis de son respect de la procédure. Les interrogatoires musclés de Batman sont pas tout à fait prévus par le code de procédure pénale. Non mais vous voyez, enfin, c'est toujours le problème, les justiciers, c'est le problème des justiciers, hein, ça a toujours été ça, c'est que c'est pas de la justice, hein. C'est de la vendetta, moi personnellement j'estime que, donc je vais aller casser la gueule à mon voisin, tu vois, bah non en fait, ça marche pas comme ça, il y a des règles quand on vit en société, chacun fait pas sa justice comme il estime que ça doit être la justice. Dis ça parce que t'as quelque chose à te reprocher. Il y a Batman qui va venir me cueillir. Et j'ai rien à me reprocher. Et Dexter, gentil ou méchant? Au nom de la loi, la force s'appelle le droit. Au nom de l'individu, cela s'appelle le crime. C'est un peu rapide. Il n'y a pas que le crime, mais ouais. T'as bien un truc qui traîne. Oui, j'ai les. Vous vous souvenez l'enveloppe que je vous ai montrée il y a plusieurs jours, là, que j'ai reçue par le courrier? En fait, c'est les impôts qui m'écrivent parce qu'ils m'ont envoyé un avis d'impôt, ils m'ont envoyé un avis d'impôt pour une taxe professionnelle. Le problème, c'est qu'ils m'ont demandé ça pour une auto-entreprise qui est fermée depuis 3 ans. Un peu long à la détente, les impôts, sur la clôture des dossiers. Donc je vais leur renvoyer un courrier en disant, comme je vous l'ai déjà dit l'année dernière, cette entreprise n'existe plus depuis plusieurs années. Il s'agirait d'arrêter de m'envoyer des relances, en fait. C'est les impôts. Ah non, mais on les aime, les impôts, on les aime. Courage, hein, les fonctionnaires de l'administration fiscale. T'as volé combien cette fois? Mais j'ai rien volé, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, ça n'existe plus. Est-ce que Debout la France a toujours un poids quelque part ou plus du tout depuis qu'ils n'ont plus aucun député? Je vais être très honnête avec toi, Debout la France, même quand ils avaient un député, ils n'avaient pas de poids, hein. Nicolas Dupont-Aignan, la seule fois de sa vie qu'il a eu du poids, c'était quand il s'est retrouvé entre les deux tours de l'élection présidentielle à apporter son soutien à Marine Le Pen. Il a fait une conférence de presse côte à côte avec Marine Le Pen. C'était le summum de son influence. Elle a laissé entendre d'ailleurs qu'il pourrait devenir Premier ministre si jamais elle était élue présidente de la République. Bon. Bientôt, tu diras que le NPA n'a pas de poids non plus. Anyway. Alors que donner de l'argent aux impôts, même s'il n'en doit pas, mais il ne le fait pas, ça cache quelque chose. Quel NPA? Déjà, quel NPA? Alors que Zemmour, quand il avait 2 députés européens pendant 3 jours, mais Zemmour, tout le monde le quitte. Zemmour, ça a été la hype de l'extrême droite. Ça a duré 3 mois. Après, ça a été catastrophique. Depuis, tous ceux qui sont barrés du RN pour rejoindre Zemmour le regrettent. À commencer par Manon Maréchal, qui a fait demi-tour et qui est retournée voir sa tante en urgence. Là, j'ai vu que c'était Ambroise Méjean, je crois, le mec des jeunes avec Zemmour qui s'était barré aussi. Zemmour, c'est la crypto-monnaie de la politique. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, mais Jean, c'est les jeunes avec Macron. Ah merde, pardon, pardon. Pardon, désolé. C'est Stanislas Rigaud. Ou Rigaud. J'ai confondu, je suis désolé. Ambroise Méjean, c'est les jeunes avec Macron. D'ailleurs, je l'ai rencontré, Ambroise Méjean. Très sympa. C'est les jeunes avec Macron, ouais. Donc, fatigue. Jean Pinaille, on a un déficit à combler. On lui demande une contribution exceptionnelle, même si elle est injustifiée. Il pourrait faire un effort pour le réarmement de la France militaire, démographique, il choisit. Je suis un connard. Ah bah c'est sûr, c'est pas avec des mecs comme moi qu'on va réarmer le pays. Je suis politiquement de centre, orienté droite, et je dois rencontrer la sœur de ma copine, elle étant de gauche. Des conseils pour faire une bonne première impression sans lancer de sujet tabou politiquement parlant. Alors ça dépend, elle est de gauche quoi? Elle est de gauche intolérante, incapable d'entendre autre chose que ce qu'elle pense déjà, ou de gauche, vas-y, bah les couilles, plutôt de gauche, mais on s'en branle. Parce que ça change quand même pas mal en termes d'approche. Et sinon, est-ce que j'ai des conseils? Non, après, vous n'êtes pas obligé de parler de politique, hein, tu sais, je parle de ciné, parle de musique, parle d'actu, voilà. Perdu ses cheveux bleus. Évite de dire que t'aimes bien Gérard Depardieu. Ouais, évite de dire monstre sacré du cinéma. J'ai déjà préchoté le bouquet de fleurs pour accentuer les mœurs. En plus, elle est avocate dans les énergies renouvelables. Moi, étant pro-nucléaire, ça va être les étincelles. Oh, pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr, hein. Ah ouais, putain, tu sors les fleurs et tout pour rencontrer la sœur de ta copine. Putain, il y en a qui mettent les formes, hein. Je rencontre la sœur de ma copine. Je sais pas si je dégaine le costard et les fleurs, hein. J'en sais rien, je sais pas, il faut qu'on en discute, mais... Ouais, en même temps, il est de droite. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que vous aurez toujours une longueur d'avance, les gars. Hein. Droite, ils sont bien sapés. Droite, les gens sont bien sapés. Voilà, c'est comme ça. C'est chiant. Elle est peut-être mieux que sa copine aussi. On fait les choses bien ici. Ah, non, non, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Bravo. Non, je suis très admiratif. Normalisons le survêt et le maillot de foot pour rencontrer la belle famille. Même si t'aimes pas le foot, tu mets un maillot de foot. Non, mais bon, bon courage. Hein. Bon courage à toutes les personnes qui doivent draguer une personne qui appartient à un camp politique différent. Je sais que c'est pas facile. Je me doute. C'est facile pour un coup d'un soir. Non, mais si c'est juste pour BZ, est-ce qu'on regarde vraiment l'appartenance politique? À partir de quel niveau d'implication ça devient important de connaître le camp politique? Non, mais c'est... Pourquoi vous croyez que les gens... Pourquoi vous croyez que ça baisse dans les partis politiques? Parce que au moins, t'as coché ça. T'as coché ça, c'est déjà à peu près sûr. Si elle a un portrait d'Hitler sur sa table de nuit, ça compte. Oui, effectivement, dans certains, ouais. Après, les bottes en cuir, il y en a qui kiffent. Hein. Voilà, je. Bon. Faut que je retire mon orientation politique de Tinder pour Ken deux fois plus alors. Quelle que soit ton orientation politique, si tu l'as mise dans ton profil Tinder, je suis sûr qu'il y a un milliard de gens qui swipent à gauche. Tellement c'est relou, les gens politisés. Les gens qui affichent leur opinion politique de prime abord, 100% c'est des gens casse-couilles. C'est la douleur, c'est des problèmes. Donc après, ça dépend quel niveau, enfin, voilà, à quel point t'as envie de pécho, etc. Mais je vous jure, hein, c'est. J'ai enlevé modérateur du premier streamer politique de ma bio depuis. En effet, rien n'a changé. Les modos de ma chaîne ne baissent pas plus. Désolé, ça n'a vraiment aucun intérêt du coup. C'est un red flag. Ah ouais, vraiment, c'est un red flag. Hein, Quelle que soit l'orientation politique, c'est red flag. Ça doit pas empêcher d'être engagé politiquement, hein, mais. Non, vous devriez venir dans le public de Backseat. Hein, là, c'est garanti. garanti les rencontres. On est max 3 meufs à chaque backseat. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis venu deux fois et je confirme que ma soirée s'est bien finie. C'est bien terminé à chaque fois. Merci backseat. C'est vrai ou pas? Non, ça me regarde pas. Non, je veux pas savoir. En vrai, je meurs d'envie de savoir, mais je veux pas savoir. Voilà. Très content que l'émission vous plaise. Le reste, ça ne me regarde pas. Ça te regarde un peu. Non, 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 je veux pas savoir. Ça sent les problèmes. Non, non, mais après, c'est des problèmes pour les streamers et tout. Non, 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 non. Je suis pas au courant. Moi, j'ai. Non, non, non. Se faire backchoke grâce à Backseat. T'as pas envie d'être parrain d'un bébé Backseat? Non! Non, je veux pas savoir! Je veux pas savoir. T'as quoi dans les nems pour que ça finisse bien? Mais y a rien! Mais non, mais. C'était après qui, Bompard, Gage ou Tondelier? Le premier bébé backseat qui s'appellera Jean Usul. Quel enfer. Le mec est reparti avec l'invité politique. Oh, BG. Est-ce que les invités restent à l'after? Pas souvent, pas souvent. En général, ils sont pressés de rentrer chez eux pour retrouver leur moitié, donc les invités restent pas souvent. Et quand ils restent, c'est quelques minutes. C'est pas. Villani était bien resté. Villani, il était resté tard, ouais. Hugo Bernalicis très tard. On a bien rigolé. Castaner à l'époque, t'es resté tard. C'est vrai. Il y a des anecdotes sur les afters? Non. Non, 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 les after backseat, c'est très très cool, hein. Il y a des nems, il y a des crudités, il y a des bières, il y a du vin, il y a des plateaux de fromage, plateaux de charcutes. Et avec les membres du public, avec les membres de l'équipe, avec les chroniqueurs, etc., on mange un morceau, quoi. On boit un coup et on papote et voilà. Sophie Prima, bout en train à l'after. Non. Non, 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 Sophie Prima, elle n'est pas restée très longtemps, mais elle est restée quand même quelques minutes. On a échangé un petit peu après l'interview et elle est partie. J'aurais pas cru pour Castaner. Bah, Castaner, il a un passé de fêtard, hein, ça c'est connu. Castaner, il a un passé d'homme de la nuit. Donc, c'est pas le dernier quand il s'agit de partager une bière et de rigoler et de parler de tout, de rien. Donc, on était resté discuter avec Christophe Castaner après l'interview. Et après, il était parti. Je vais y aller, les copains. Je vais y aller. C'est le début de la soirée. Je vais vous laisser profiter de contenu plus léger sur Twitch pour vous enjailler comme il se doit. Et didadidadoum. Profitez bien. Demain, stream, pas stream, je sais pas encore. Je verrai. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs en fin d'après-midi là? Demain, peut-être un stream, ouais. Et ce week-end, on verra. Merci les copains d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Merci pour les subs. Merci les personnes qui s'abonnent. Ça fait plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. Merci à toutes et à tous. Salut. Ciao, bye bye. Fin de stream.